Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission. Alors, qui commence par comme la meilleure année, la meilleure décennie de tous les temps, l'émission 80. Je suis heureux de vous retrouver et alors, je ne suis pas accompagné, mais de deux personnes. On retrouve le trio presque initial, puisque bon, il est arrivé à la quatrième émission. Du haut de son émission de 4 heures où il a parlé de Rogue One, je m'en souviens encore. Bonjour Morgane, comment vas-tu?
Bonjour, bah, très bien. Passé des grandes vacances d'été. Je suis en vacances pendant presque cette semaine, donc c'est pas mal. Il y a peu de gens qui
Et
ont
on
autant de
s'est
vacances.
croisés.
Et on s'est croisés pendant ces vacances, donc parfait.
Et nous avons Taulier, le pilier et la pierre angulaire de ce podcast, l'inoubliable, l'inébranlable John. Bonjour John, comment vas-tu?
Hello, hello. Bah, ça va bien, hein.
Et alors, John, moi, ton pseudo ne me plaît pas beaucoup, mais on ne va pas en parler si tu ne veux pas en parler. Et alors, messieurs, qu'est-ce qui fait chaud chez vous en ce moment? Parce que vu dans le nord, il a fait 23 cet après-midi. Pour un mois d'octobre, c'est un petit peu étonnant. Et par chez vous, comment ça a été?
29 pour moi, donc ça a été.
Aïe, aïe.
Bon, il fait 22. Il fait 22 à Montréal, grand soleil. Je suis en congé en plus, c'est férié.
Oh là là.
J'irai courir
Oh
après.
là là. Oh là
Mais
là.
ouais, écoute, ça fait plaisir là d'avoir un joli une jolie
Été indien.
semaine. Ouais, l'été indien, exactement. Là, ça va jusqu'en octobre, ça fait plaisir. Par contre, on est férié ce week-end. Enfin. J'ai un week-end de 3 jours ce week-end là, donc on est lundi, je suis férié. J'ai re le lundi prochain qui est férié aussi. Sauf
Oh.
que, a priori, les prévisions météorologiques, c'est qu'il va pleuvoir le samedi dimanche. Voilà.
Ah. Et qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que les feuilles tombent? Est-ce que c'est rouge par les feuilles sont rouges, les feuilles
Ah bah
d'érable?
ouais, là c'est le temps des feuilles, bien sûr, ce qu'ils appellent le temps des feuilles. Magnifique là, pour le coup, c'est vraiment très beau le Québec en automne. Les feuilles qui changent de couleur, qui sont jaunes, rouges. T'as même une carte interactive sur Internet qui te dit où tu vas, quelle est la couleur des feuilles et tout. Tu veux plutôt les voir jaunes, plutôt
Ah ouais.
rouges, plutôt.
Eh ben, c'est cool ça. C'est cool, c'est cool. Alors messieurs, est-ce que je suis le seul à avoir un apéro ou pas?
Ah, j'ai oublié, je vais me chercher une bière, j'arrive.
Ah, John, as-tu un apéro?
Non.
Eh ben, je vais me lancer tout seul avec alors celle-ci dans le réfrigérateur depuis mon anniversaire. Donc elle doit être ultra fraîche. Et elle a un joli prénom, puisque c'était le prénom de mon ancien poisson rouge, Oscar. Donc voilà, je dédie cette dégustation à mon ex-poisson rouge qui est mort depuis une éternité. Oscar, celle-là, elle est pour toi, puisqu'elle porte le même prénom que toi. Voilà, c'est une bière à 6 degrés 6, une blonde, qui m'a été offerte pour mon anniversaire, puisque oui, étant très proche de la frontière, ayant l'opportunité d'avoir une brasserie qui propose plus de 300 sortes de bières différentes, bah à chaque fois, il y a un ami qui me ramène des bières. Et comme je suis quelqu'un qui se déguste mes bières, bah depuis le 31 juillet, j'en ai bu 5 sur 6 et c'est la dernière. Voilà, donc à la santé d'Oscar. Voilà. Alors, est-ce que Morgane est revenu ou pas? Non?
Oui.
Ah, alors, as-tu quelque chose à nous faire partager?
Moi j'ai une trinqueur. Le trinqueur. Et une
Le
image
trinqueur
avec
ou le traqueur?
trinque, comme trinqué. Trinqueur.
Trinqué. D'accord.
Que je veux dire c'est une image d'un monsieur avec un béret, une barbe rousse, des cheveux roux et la cornemusette derrière.
Oui.
Et ce qu'ils appellent une Scotch Ale. A gagné
Ah.
le World Beer Awards de l'Amérique, pas du monde.
Ah.
Pas pourquoi ça s'appelle World si c'est l'Amérique. Elle a eu la médaille d'argent. C'est inspiré de bière belge, fait au Québec.
Oui.
Et c'est un monstre à 9 degrés. Je vais
Ah
aller
ouais,
goûter
d'accord,
ça.
c'est triple quoi. Ah ouais, d'accord. Non, moi, c'est à 6-6, ça va. Ça va, ça va. Eh ben, écoute, sur ces bonnes paroles d'apéro, on a un sommaire
Oh.
comme d'habitude, un peu d'actu, du geekage. J'aurais... Ouais, j'ai oublié, j'ai une recommandation, c'est vrai. Tiens, je la mettrai quand même à la fin. Et ben, écoute, pour commencer, Morgane, est-ce que tu, comme tu as tout le plus d'actualité, je te laisse commencer par l'actualité que dont tu as envie, puisque nous avons John Kenny
D'accord.
s'absenter pendant quelques minutes.
Eh bien, je vais boire une petite gorgée de cette bière avant de commencer.
Oh là 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 là, mais comment il ménage son suspense.
Non, mais
Oh là
j'ai pas
là.
beaucoup d'actualités, j'en ai que trois, et il y en a deux qui vont
Oui.
ensemble. Alors, on
D'accord.
va aller faire une petite actualité rapide, rapide, rapide.
Oui.
On va parler des cyberattaques qu'il y a eu récemment chez les hébergeurs. Donc, en fait, cet été a été assez. Donc, en fait, on n'a pas fait d'épisode depuis cet été, en fait, au mois de juin, je
Oui,
pense.
oui, 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 oui. Alors c'est notre grand grand souci. On a du mal, de plus en plus de mal à se caler. Et comme je l'ai dit précédemment, on continue, on recrute. Si vous voulez que ce podcast continue, on recrute parce que c'est de plus en plus difficile de se caler au moins à deux. Donc si vous voulez que ce podcast continue dans la durée, eh ben on cherche un ou une nouvelle membre afin qu'on puisse aussi et avoir du sang nouveau et aussi avoir plus de personnes dispo à participer parce que comme vous voyez Joliette également a un agenda de ministre et nous avons quelques personnes qui nous ont quittés en cours de l'aventure. C'est vrai qu'au bout de 80 émissions ça devient compliqué, mais bon, bref, là n'était pas la question et j'en suis désolé Morgane de t'avoir coupé dans cet élan.
Non, 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 mais oui, du coup, il y a quand même pas mal de choses à dire, vu que ça fait 2 mois, 2 mois assez long dans la tech. Donc,
Oui.
il y a quand même plusieurs choses à dire, puis il s'est passé plusieurs choses pendant cet été.
C'est vrai.
Donc, c'est un des avantages de pas faire de se prendre des vacances d'été, c'est que derrière, t'as des choses à dire après. Ouais, non, non, mais je vais faire rapide, c'est qu'en gros, on a, je sais déjà plus, je pense que c'est danois, un hébergeur cloud, ouais, danois, c'est ça, Cloud Nordic, qui a été
Oui.
victime d'un cryptolocker. Alors pour rappel, un cryptolocker, c'est un petit logiciel qui chiffre les disques.
Attends, c'est pas, il crypte pas le disque dur?
C'est exactement ça. Et il demande une.
D'accord.
Le principe là, c'est que c'est un logiciel qui chiffre tous tes fichiers. Pour
Oui.
parler français, parce que crypté est un
Oui, oui,
anglicisme,
oui.
évidemment. Ils te fournissent la clé de déchiffrage uniquement si tu payes.
Et
Ce qu'on
encore,
appelle.
s'ils veulent bien la donner.
Oui, s'ils veulent bien la donner. Mais voilà, donc voilà, c'est l'idée. Donc l'hébergeur cloud s'est fait prendre. Alors eux, ça a été violent parce que je pense quasiment 100% de leur infrastructure a été touchée, ce qui fait qu'ils
Ah
ont
ouais?
perdu la totalité de l'ensemble des données clients. Donc ils n'ont pas voulu payer et ils ne
Ouh
voulaient
là
pas, enfin
là.
ils ne pouvaient pas et ils ne voulaient pas. Donc voilà, de toute façon, quand tu es chez un hébergeur, c'est à la charge du client de faire ses backups de sécurité. Il faut pas compter que
Ça me
sur
rappelle quelque chose. Ça me rappelle quelque chose.
OVH.
Oh oui. C'était pas pour la même raison, hein. Disons que le bois et les serveurs, ça fait pas bon ménage.
Ok, donc en gros, ce qui s'est passé, eux, comment ils se sont fait choper, comment ils se sont fait avoir, c'est qu'ils avaient une machine infectée, et quand ils ont migré de réseau, ils ont migré une
Ouais.
machine infectée qui s'est propagée sur tout le réseau, sachant que c'était un réseau qui communiquait pas, enfin c'était un réseau interne, quoi. Et puis il suffit qu'il y ait eu une machine verrouillée qui rentre dans ce réseau, et ça a suffi pour
Ah mais
contaminer tout le
c'est curieux
réseau.
que ce soit une machine qui soit verrouillée de l'intérieur.
Euh, bah c'est
Bizarre.
ça, c'est un logiciel, c'est un virus dormant, quoi. Et dès qu'il peut se réveiller, il se réveille.
D'accord.
Ensuite, 3 jours plus tard, ça a été au sous. On reste en Europe, mais
Ouais.
on change. Ça a été autour de la Suisse, l'hébergeur qui s'appelle Oster,
Ouais.
qui lui aussi a subi une cyberattaque avec des cryptolockers. Sauf que eux, ils s'en sont plutôt bien sortis parce que toute la partie SaaS là,
Ouais.
n'a pas été touchée. Ça a vraiment été la partie hébergement PHP, quoi. Et donc ça va, ils en sont, en gros les clients les plus graves sont, enfin les plus importants sont restés hors de contrôle. Donc
Oui, ils ont bien isolé leur réseau, ça a été pas mal. Ce qui, voilà, donc pour ceux qui ont été touchés, je crois qu'il y a eu la ville de Saint-Raphaël en France. Enfin bon, bref, il y a eu quelques hébergeurs, quelques sites, mais rien d'une importance capitale. Il y a eu aussi des ESN, des acteurs de l'informatique qui ont été touchés. Alors, je vais pas tout les citer parce que la vérité, c'est que j'en connais presque aucun. Mais si le seul que je connais, c'est Accenture. Toi, tu dois connaître Accenture.
Oui. Bah après, il y en a beaucoup. Après, les ESN, il y a ESN et ESN. Hein, il y en a des grandes et il y en a des beaucoup plus petites. Hein.
Bah, Accenture a été touché. Ah oui, il y a aussi eu en 2023, il y a aussi eu OVH qui s'est retrouvé sur les CryptoLocker, mais ça n'a pas eu beaucoup d'impact. Ils ont réussi à très vite réagir.
Ouais.
Par contre, un qui s'est bien fait poutrer, c'est Bouygues Telecom.
Oui.
Bouygues Telecom Enterprise and Cloud. Eux, ouais. Paralysés entièrement. Donc voilà, ça, c'est la liste de toutes les cyberattaques au CryptoLocker qu'il y a eu chez nos hébergeurs, nos hébergeurs européens presque.
Ouais.
Il y en a eu plusieurs, oui, hein, quand même.
T'en as pas mal. Et en même temps, ce qui est curieux, c'est quand tu vois, regarde, tu parlais de SN tout à l'heure, il y a, je vois en 2021, il y a eu Inetom aussi qui a été attaqué. Alors, Inetom, tu connais peut-être pas.
Non.
Mais c'est ex-GFI. GFI, t'as dû connaître, non?
Non plus, je connais pas plus.
Ah, grosse ESN, hein, Inetom. Ouais. Alors bon, d'ailleurs, hein, y en a d'autres qui ont vite modifié son nom, hein. Ils ont mis rajouté un R et un C, mais bon, ça, je ne te dirai pas où ils l'ont mis, hein.
Inetom.
Pour le nom. Rajoute un R et un C, tu vois.
Je le vois pas, là. Moi, je le comprends pas.
Inetom. Rajoute un R après le R après le N et un C après le E. Inrectum.
Ah.
Voilà. Okay, bah, cool. À un moment donné, je vais essayer de compléter les blancs. Hein. Okay. Mais c'est ça. Non, il y a. Tiens, il y a même une filiale d'Adeco fin 2022. Hein. Et ça arrive assez souvent. Par contre, ce qui m'étonne à chaque fois, c'est que j'aimerais pas être le DSI d'une boîte comme ça.
Ah là, non. En Québec, là, il y a une banque qui s'appelle les Laurentides.
Ouais.
La banque des Laurentides. Ça fait une semaine, les gens ne peuvent plus accéder à leur compte en banque.
Ah ouais.
Pas faire de virement pendant une semaine. Je comprends pas comment
c'est possible. En plus, c'est vrai que je crois que si je me trompe pas, les gens sont payés à la semaine.
Ouais.
Donc c'est-à-dire qu'ils ont eu une semaine de salaire qui ne peut pas être versé sur le compte.
Tous les virements qui ont pas été, qui sont pas passés.
Ouais.
Mais bon là, c'est d'autres choses. C'est pas de la crypto, c'est pas du crypto locking là. C'est ont essayé de mettre à jour un de leurs serveurs. La mise à jour OS, elle a foiré et ça a tout, tout saturé.
Me dire que c'est pas des trucs qui sont vérifiés avant d'être mis en prod, ça.
Bah, c'est ça qui fait peur. C'est vraiment ça qui me fait peur.
Je veux dire, c'est le minimum, hein.
Bah, ouais.
Je sais pas, moi. Là, nous, cette semaine, on a eu un. Bon, après, c'est pas au même niveau, mais nous, on reçoit beaucoup de flux de prestataires publics maintenant. De par ma nouvelle activité professionnelle, et en gros il y a eu on a créé une nouvelle appli, plutôt une nouvelle requête pour automatiser c'est un collègue qui a créé ça, et bizarrement il dit que la requête elle passe pas alors que nous elle passe, quoi. Donc c'est son script qui fait qu'il arrive pas à l'automatiser, tu vois. Mais on met toujours on vérifie plusieurs fois avant de mettre en prod, tu vois. Et il y a toujours le principe du go no go. Je sais pas, vous êtes pareil. Ça,
ouais. Oui, évidemment.
Si vous dites, voilà, si c'est go, c'est que ça a été vérifié, revérifié, re-revérifié, hein, sur la bêta, la pré-prod, la prod, tu vois. Waouh, je sais pas, mais le DSI de Laurentide Bank, ou la banque des Laurentides.
Là, ils ont annoncé que le chef, il y a plusieurs postes à responsabilité, ils se sont fait retrouver virés, remplacés par d'autres. Ah bah attends, c'est grave.
Ah, bon, non, mais il y a un moment donné, il y a une chaîne de... Je veux dire, t'as quand même une chaîne de décision, quoi. Bon, bref, c'est... Voilà. Si eux ont sauté, il y en a d'autres qui auraient peut-être dû sauter avec. Mais bon, bref, ça c'est... J'imagine
que celui qui est dans l'IT, là, qui gère genre des serveurs, lui, il a dû prendre cher. Pas de backup, rien, lui, il a dû prendre cher. Minimum de faire des backups. Là, ils auraient dû faire un backup. Tu fais un upgrade de système d'exploitation. Un backup de avant, et au cas où ça se passe mal, tu roules back.
Nous, on a à peu près, on gère 5 millions de personnes tous les mois. On a le backup et le backup du backup. Ah, ils sont pas stockés au même endroit.
Ouais, tu les emmènes sur Band Magnetic. Donc, en plus, t'as des règles normalement.
Non, ils sont stockés. D'après ce que j'ai compris, ils sont stockés ailleurs. Mais bon, on m'a pas dit plus d'infos. Et moi, je le vois parce que je vois des duplicata de BDD. Donc, voilà. Il y a New 1, New 2, New 3. Donc, voilà, je me doute que c'est pas pour rien, quoi. Mais bon, je trouve ça un petit peu étonnant. Bon, après, il y a rien qui dit. Il y a aucune entreprise qui est faillible, là. C'est celle où tu es actuellement ou celle où je suis, hein, je veux dire. Mais il y a quand même là des chaînes de décision qui sont un petit peu étonnantes, on va dire.
Exactement.
Mais par contre, ce qui m'étonne, c'est je connaissais pas ce principe de virus dormant, tu vois. Parce que si la machine est dans un réseau qui est interne à la boîte, comment il a pu rentrer? C'est soit qu'il y a une manip physique.
Mm-hmm. C'est ça, je pense qu'ils ont pour le coup, mais j'en sais rien, la news elle est pas très explicite là-dessus. Mais moi j'imagine qu'ils avaient un serveur et ils l'ont migré, je sais pas, par exemple il y avait trop de... Et c'est des racks de serveurs, donc ils en prennent un, ils ont pris une machine dans le rack, ils l'ont changé, parce que je sais pas, il y avait peut-être, ils avaient besoin de plus de calcul à gauche, et puis ils l'ont pris à droite où c'est libre là. Donc en fait à droite c'était en... C'est décontaminé.
Oh purée.
Bon, du
mais
coup,
c'est pas vrai, ils doivent flasher les disques. Hein. Bon, bref.
Ouais, pour en revenir, j'ai parlé un peu, c'était l'introduction, cette news de qui s'est fait hacker. Maintenant, je voudrais vous parler un peu plus d'un article sur PyLocky. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. PyLocky, c'est un crypto-locker en Python. Et on va suivre ensemble comment les enquêteurs français ont remonté la piste de Hamza Bendelage, je sais pas comment on dit. Donc qui est ce Hamza Bendelage? Ah, il a été surnommé le hacker souriant par la presse, parce que quand il s'est fait arrêter, il avait le petit rectus, non pas un autre mot, mais le petit rectus au coin des lèvres. Est très très fier de lui d'être un hacker. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce monsieur est connu pour être pour son implication dans le cheval de Troie SpyEye. Alors vous rappelez peut-être pas de ce que c'est, mais ça date de 2016. Et oui, l'apéro des papas manchots devait déjà exister à cette époque-là.
On est né en octobre 2016.
Ah voilà. Donc SpyEye, c'est un logiciel qui avait mis à mal le système financier à l'époque. Et il s'est fait arrêter donc en 2016 pour avoir commis des crimes aux USA. Et il s'avère qu'en 2018, la France, alors pourquoi la France en particulier, on ne sait pas, mais la France et les institutions françaises sont retrouvées victimes d'un certain logiciel espion, CryptoLocker, qui s'appelle PyLocky. Et on va voir ensemble comment, mais les enquêteurs français seraient revenus à la possibilité que ça soit ce Ben, ce hacker souriant qui soit là. Je veux pas prendre le risque d'écorcher son prénom, alors je vais prendre son surnom. Le hacker souriant qui soit à l'origine de tout ça. Alors, sachant qu'en 2016, il a été inculpé pour 15 ans de prison, son implication dans le cheval de Troie. CryptoLocker, merci. Apparemment, c'était donc du code Python, environ 200 lignes, et quand ils ont analysé le code source, les enquêteurs ont été estomaqués par apparemment l'amateurisme derrière ce CryptoLocker, parce que normalement, t'essayes de pas te faire repérer, tu mets pas toutes les fonctionnalités du même logiciel dans un seul logiciel, sinon les antivirus, ils te détectent et ils disent c'est bizarre, il veut faire trop de choses, il veut enregistrer l'écran, il veut enregistrer les touches du clavier, il veut enregistrer, il veut accéder au fichier, il veut crypter des choses, voilà. Et il dit c'est bizarre, je t'autorise pas à t'exécuter. Et là apparemment, tout a été mis dans le même code. Alors, les enquêteurs se sont aussi intéressés à une campagne de spam qui a été mise parce que le moyen de propagation de ce CryptoLocker, c'est par mail. Hein. Attends, on dit en français un rançongiciel. Ben oui. Les policiers découvrent très vite au cours de l'été un premier indice. Les serveurs utilisés dans la campagne de spam étaient situés en France, dans un petit hébergeur lyonnais. Alors, pourquoi ils ont choisi de lancer la campagne depuis la France ? C'est en fait pour prendre un petit hébergeur local qui, comme ça, ne serait pas sur les listes noires des spammeurs.
Easy Hébergement.
Non, c'est pas Easy Hébergement. ça, c'est le nôtre. L'accès à une copie, voilà, donc ils ont obtenu, ils ont commencé par prendre le parce que il s'est diffusé par des mails, donc ils ont commencé à regarder d'où venaient les mails et les policiers ont saisi le serveur de là où sont partis les mails et ils ont demandé donc à Lyon d'accéder aux machines, d'avoir une sauvegarde des machines et tout ça. Donc ça, c'est de là que ça a commencé. Et là, en partant de là, ils sont tombés sur un certain Boualem. Et le mec, en fait, c'était le frère du hacker. Et détenu, c'est quoi, dans le Kansas, je sais plus. En fait, c'était nul autre que son frère. Ils ont retrouvé les adresses IP que le hacker souriant avait. Ils ont retrouvé les adresses IP du hacker souriant sur ce serveur. Et aussi, apparemment, il aurait été aussi relié dans un autre botnet qui s'appelle Zeus. Celui-là, il a été découvert par Microsoft en 2012. Donc, mm-hmm. Tu vois, ça fait quand même une histoire de virus qui dure depuis presque 5 ans, ouais. Et en fait, si tu veux, je vais aller vite, mais là, je vais accélérer. Mais en gros, non, je vais pas aller tout de suite. Donc ouais, on voit qu'il y a plusieurs malwares qui sont ce hacker souriant et son frère sont dans plusieurs logiciels. Et en fait, ce qui s'est passé, ce qui a tout fini par trouver, c'est qu'en gros, à la fin de l'année 2018, les policiers donc ils sont même sûrs que c'est ce hacker souriant et ils vont essayer de chercher à étayer cette piste, à chercher plus loin. Ils ont fait quelque chose qui est assez exceptionnel pour la police, je trouve. Ils ont réussi à retrouver la clé privée et surtout à mettre au point un logiciel de décryptage. C'est la première fois que, je pense, en France, on atteint un tel niveau technologique d'être capable de faire ça. Dans une histoire judiciaire, hein, j'entends.
Bah oui.
La suite, ça va être un peu plus laborieuse parce que le hacker, il est enfermé aux États-Unis, il y a la justice internationale, la collaboration, tout ça. Puis il s'avère que les Américains, ils en ont un peu rien à foutre des Français. Donc le procès était censé avoir lieu le 31 août. Donc là, je vous ai dit comment est-ce qu'on a retrouvé la piste du CryptoLocker, là, de lui et de son frère. Et il faut savoir que le 31 août, le moment du procès, ça s'est fait en visioconférence parce qu'il était dans une prison aux États-Unis. Donc déjà plusieurs. On peut. Alors si je m'arrête là avant d'aller plus loin là, parce que après ça va être quand même what the fuck. Mais si je m'arrête là, déjà on peut se demander comment un mec en prison peut mener des attaques, même avec l'aide de son frère, comment il peut mener des attaques contre l'État français. Un hacker algérien là. Il est censé ne plus avoir accès à Internet, ce gars-là en prison quand même. Il est quand même. Bon, voilà. Ouais. Apparemment, le fait d'être dans une prison aux États-Unis, ça l'a pas bien empêché d'accéder à Internet et aux ordinateurs, quoi. Donc, son procès qui s'est passé le 31 août, alors là, ça va devenir hilarant. Ça commence en visioconférence. Alors, la visioconférence se fait prendre une attaque DDoS. Donc, problème de connexion, tout ça. Ça dure des heures. Je pense que ça a duré 4 heures. Au bout de 3 heures, la visioconférence commence seulement et le juge d'instruction s'est trompé dans les noms des logiciels malveillants. Au lieu de dire Pilot, il avait dit je sais plus, en plus j'ai pas la news sous les
yeux. Pilote.
Non, il avait utilisé un autre nom de machin. Alors lui, au moment du procès, quand on vient lui voir, puis on lui dit ouais, t'es sous ce logiciel, on savait même pas de quoi il parlait parce que c'était pas Pilot là, c'était. C'est un autre.
Oh là là.
J'ai oublié le nom, je suis désolé. Du coup, il s'est fait relaxer. Voilà, il sera pas jugé en France parce que l'accusation, je sais pas comment ils se sont débrouillés. Et ça montre vraiment le niveau judiciaire de chez nous. Je sais pas comment ils se sont débrouillés, ils se sont trompés de nom de virus. Et du coup, il a été relaxé. Donc bon, bah, il finira de perdre. Il a une peine de 10 ans, je pense, pour dans les États-Unis. Il est censé ressortir en 2026. Mais là, en 2023, il était censé prendre 8 ans de plus en France pour avoir piraté l'État français à plusieurs reprises à coups de CryptoLocker. Il y a eu des instituts d'État, il y a eu des cabinets dentaires, il y a eu des trucs, enfin tout ce qui était. Il y avait eu des hôpitaux, enfin bref, vraiment eu. Voilà. Et le gars, il s'en sort parce que la justice a vraiment s'est trompée de nom.
Pathétique.
Pathétique. Donc quand on voit en plus les lois liberticides qu'on est en train de passer en France à coup de dans les browsers, il faudra interdire des sites directement dans les browsers, il va falloir faire des trucs de vérification d'identité pour accéder aux sites porno, je sais pas quoi. Enfin, quand on voit les absurdités
ça,
de lois qu'on
nous passe, ça fait des mois qu'ils en parlent, mais ils y arriveront pas. Hein.
Ben, on espère, mais enfin, on va voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, là, vraiment. Bon, bref, ouais. Voilà. Allez. Une news qui a beaucoup trop duré, mais voilà, tout ça pour dire l'amateurisme de la France là-dessus, ça m'a. Ok, les enquêteurs, ils ont réussi à remonter la piste.
C'est ça le pire.
Ils ont fait quelques innovations, mais alors.
C'est ça le pire. Pour moi, c'est ça le pire, c'est qu'ils ont fait le travail, quoi. Et que derrière, la justice, elle suit pas. Je veux dire, c'est pas la police, elle a fait son travail, elle a essayé de les retrouver, et puis, résultat du compte, voilà. Je trouve ça un petit peu dommage. Je sais pas ce que t'en penses, John, de tout ça, mais moi, ça me désole.
Disons que entre les informations officielles et qui a officieusement, on peut se demander. Et voilà. Sans trop m'étaler, personnellement, j'ai du mal à croire à cette justification-là.
De qui sont trompés.
Ah, tu sens plutôt l'arrangement, toi.
Moi, je pense plutôt que ça doit être un bon tonton pour ce qui se passe du côté des États-Unis. Et que on lui a fait une petite surprise pour qu'il continue à être un bon tonton.
En fait, il y a deux choses. Il y a un, le fait qu'il puisse continuer à opérer en étant en prison. Et il y a deux, il y a le refus de collaborer de la justice américaine. Ensuite, je pense que ce qui s'est passé, pourquoi il s'est fait relaxer, c'est que le procès qui a duré plus de 4 heures, dont 3 heures à attendre une visioconférence, je pense que le juge il doit en avoir ras le cul. Il a vu que en plus c'était procès, enfin c'était mal, c'était même pas le bon nom de joueur. Il a dit allez c'est bon, on le relâche. Moi je vois ça plus comme une négligence du juge d'instruction.
Ouais, après vu le temps que ça a mis. C'est pas comment on appelle ça? C'est pas un jugement immédiat là. Je sais plus comment on appelle ça là, j'ai un trou de mémoire. Donc ils ont eu le temps de vérifier
là, tu vois. Ouais, c'est étonnant quand même.
C'est vrai que c'est vraiment étonnant.
Que ça foire autant à ce moment-là, je sais pas, moi ça me surprend. Après, il y a peut-être été recruté par Kim Jong-un maintenant.
Enfin.
Il développe la nouvelle version de Red Star OS.
Ça fait beaucoup de fautes, d'inattention d'un côté comme de l'autre.
Oui.
Oui. Il prend pas la peine de se couvrir en multipliant les racines pour son spyware. Ouais. Le juge se plante dans les noms.
C'est ça. Et puis, moi, ce qui m'étonne aussi, c'est ce que Morgan disait au début, c'est un script Python de 200 lignes qui a été quand même assez permis, qui demandait pas mal de permissions et qui est passé dans les failles des antivirus, quoi.
Ouais, mais ça après, voilà. Hein. Ouais. En fonction de comment il est exécuté.
Oui.
Tu l'exécutes toi depuis ton VS Code, si t'as autorisé, t'as dit je fais confiance à ce truc.
Oui.
Après, c'était 2018 aussi, la sécurité était non pas.
Ouais, mais
Oui.
enfin, on n'est plus dans les années 2000, quoi.
Ah, là, 2018, il y avait, franchement, je dirais qu'avec le Covid et tout, là, il y a vraiment eu un gros.
Oui, il y a eu des, il y a eu
Des
des
améliorations.
faiblesses
Ouais, ça a été.
et de l'assouplissement sécuritaire, mais et 2018, non, il n'y avait pas le Covid.
Non, non, oui, c'est ce que je dis, mais moi je dis depuis le Covid où beaucoup de choses se sont informatisées, enfin ça a accéléré la transition. Enfin, moi je remarque, hein. Alors,
Ouais,
en
mais
tout cas, la
il y
banque
a
et
pas que
tout,
ça aussi. Je
la
pense que
sécurité est devenue.
ouais, c'est ce que j'allais dire. Ce que j'ai l'impression, ce que j'ai l'impression de rebondir sur ce que tu disais, Morgane, c'est que on est passé de bug de l'an 2000 où soit dit, tout le monde avait peur et que finalement c'était un feu de paille et qu'après c'était le fameux bug de l'an 2000. Je pense que les DSI, tout le monde se moquait plus ou moins de leur budget et qu'il fallait pas forcément faire attention. Et puis qu'il y a eu, je pense qu'il y a eu et le Covid et les attaques. Que ce soit les
La
organismes
faille
publics, les endroits.
Lockforshell, là, elle a fait très 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 mal à l'institution bancaire. Je veux dire que depuis, dès que tu pushes du code, dès que tu commets du code, c'est automatiquement scanné par des outils qui cherchent les failles de sécurité, des librairies qui ont des problèmes, tout ça, tout ça. Avant, il n'y avait pas ça. Avant, il n'y avait pas ça.
Mais il n'y a pas grand banque, hein. Je pense que partout.
Oui. Mais moi, je parle de la banque parce que je travaille dans le domaine bancaire, c'est pour ça.
Et oui, je pense que globalement, il y a eu cet effet Covid télétravail et puis crypto rançon. Hein. D'ailleurs, ça fait, il y en a eu pas mal cet été, mais quand tu regardes, ça n'a pas fait autant de buzz qu'il y a 2 ans quand c'était les hôpitaux français et les mairies qui étaient attaquées. Hein. Tu vois, nous en France, on n'a pas entendu tant que ça. J'ai l'impression dans les médias grand public, je veux dire. C'est
C'était pas la France.
passé à la sas, quoi. C'était pas prioritaire. Voilà. Bon, John, est-ce que tu as une actu ou pas? Sinon, je peux.
On
Ouais?
a eu l'équivalent de notre petite Log4j cette année.
Ah bon?
Oui, là aussi, elle n'a pas fait grand bruit.
Vas-y,
Pourtant, elle a
dis-moi.
été utilisée un petit peu partout. C'est la librairie qui sert en image libWebP.
Ah, la faille WebP, ouais,
Oui?
exact, pour les browsers.
Non. Non, non. Si, tu t'es fait avoir. Elle prend pas que les browsers. Déjà, il y a eu un problème d'incompréhension au moment de la remontée de cette CVE. C'est que la lib en question, c'est OpenLibP ou l'IP tout court. Enfin bref, c'est développé par Google initialement. Donc elle a été remontée en tant que faille sur Chrome. Et c'est là où ça commence à piquer, c'est que cette librairie, elle est utilisée partout. Et d'abord, avant de parler d'où c'est qu'elle est utilisée, c'est quoi? C'est la librairie qui sert à lire les formats WebP, qui sont soit des vidéos, soit des images à fort taux de compression, sans perdre en qualité. Et en gros, la faille, elle permet de faire un buffer overflow, donc d'écrire plus que ce qu'est, et donc du coup d'outrepasser, de sortir de la prison ou enfin de la prison, de là où est exécuté le code, là où il est censé être exécuté. C'est l'équivalent de la première Log4j. Et cette librairie, elle est utilisée sur Teams, sur Signal, par tous les navigateurs Internet, du moins les plus populaires, à savoir Chrome forcément, Edge, Firefox. Tout ce qui dérive de Chrome, donc Brave, etc. En outil, il y avait même du LibreOffice qui était impacté. Pour LibreOffice, c'est, je pense, LibreOffice Draw, qui permet d'exécuter. Et bah, on a atteint le score magnifique de 10 sur 10 en CVE. Sauf que bah, malheureusement, on a perdu quelques temps à la remontée parce qu'elle a été initialement remontée sur, comme je disais, sur Chrome. Enfin, comme appartenant à Chrome. Il y a que bien après, je crois, c'est, alors de mémoire, je crois que c'est 48 heures après, où ça a été rééquilibré et qu'ils ont dit non, non, cette librairie, elle est utilisée partout. Il y a même des frameworks qui l'utilisent de base. Mettez à en gros, voilà, voilà le merdier que ça a foutu. C'est pas fini. Ils ont réussi à patcher la faille. Le plus marrant, c'est que comme Log4j, bah, c'est une correction d'une autre faille qui a introduit celle-ci. Et voilà. Donc, si vous regardez les CVE que de vos logiciels ou que de vos extensions, bah, il va falloir commencer à regarder toutes les CVE qui sortent, malheureusement. Et bien regarder le descriptif des CVE. Il y a des outils qui permettent de récupérer les CVE et bah, à vous de partager ça pour récupérer.
C'est un peu une des faiblesses ou des forces de l'open source, là, tu sais, c'est que dans la philosophie Unix, un logiciel qui fait une chose et une seule chose bien. Et du coup, tu as un logiciel qui s'appuie sur ce logiciel, qui s'appuie sur ce logiciel. Tu as des trucs qui s'appuient sur d'autres trucs, qui s'appuient sur d'autres trucs, qui s'appuient sur d'autres trucs, qui s'appuient un maillon faible. Et tu as toute la chaîne qui est corrompue.
Ouais. Bah, surtout quand les outils qui utilisent. Ce même outil ne le déclare pas forcément de manière claire et précise.
Ouais, en plus, tu es censé les citer. Hein.
Bah après, voilà, tu prends des frameworks. Bon, alors quand c'est dans des outils propriétaires, là, je signais Teams, bon, bah, amuse-toi pour trouver toutes les infos sur ne serait-ce que les API que tu peux utiliser et les restrictions que tu peux utiliser avec Teams. Tu verras que bon, il y a des infos, mais pas trop quand même. Hein. Et puis, mais bon, si tu veux vraiment développer un truc, tu contactes le support Microsoft, et puis moyennant ta CB ou la Black Gold, ils t'aideront à trouver une extension que tu voudrais faire avec ton Teams. Mais là, ouais. Là, le truc, là, c'est que bah, de plus en plus, il faut vérifier les CVE qui sortent et vraiment les surveiller. Moi, c'est pas trop cette faille-là qui m'a inquiété en soi. C'est plus le problème de non-qualification, enfin de mauvaise qualification plutôt. Là, en l'occurrence, pour que le payload soit fonctionnel, enfin le comment dire, la charge qui permet de prendre contrôle de la machine, ça se passe par une image qui serait vérolée. Je prends de très très grosses guillemets, mais c'est ça. Le payload est envoyé par une image sur un site qui serait vérolé. Mais bah, ça aurait pu être autre chose, quoi, et plus vicieux et plus discret qu'une image, quoi. Et là, bah, pour dire un peu au rançon logiciel, bah, ça aurait pu faire très très mal, quoi. Donc, yes. Ouais, c'était, voilà, on a perdu quelques temps dessus, mais le côté, pour voir le côté positif. Ça nous permet d'apprendre que Teams utilise des bibliothèques open source. mais plus sérieusement, ça permet aussi de voir que bah, d'apprendre quels sont les frameworks quel framework utilise quelle extension ou librairie complémentaire en plus. Et comme tu le disais, Morgane, une porte d'entrée, possible à une attaque.
Okay. Eh ben c'est joyeux tout ça. Hein.
Bon, toi, moi ce que je comprends, si je dois résumer, c'est juste toi ce qui t'a ton coup de gueule là-dessus, c'est que c'est tout le monde a vendu ça comme une faille des browsers, parce que c'est les browsers qui permettent le plus facilement d'accéder au WebP, alors qu'en vrai ça s'est retrouvé dans Teams, c'est dans plein d'autres logiciels.
Ah ouais. N'importe quelle application Android qui charge des images. Techniquement, tu vois, ça aurait pu se passer via l'application qui permet de se connecter à Reddit, par exemple.
Ok. Eh ben, bien résumé. C'est vrai que j'ai lu ça en lisant les gros articles aussi. Je pensais, j'avais pas réfléchi à tout ça, de tous ces vecteurs d'attaque. Déjà, tu voulais nous parler, toi, de...
Ah, mais moi, ça va être très simple. C'est pour les utilisateurs lambda, je dirais, qui souhaitent se découvrir Linux et qui souhaitent notamment trouver une parmi les nombreuses distributions disponibles dans la communauté, bien une distribution qui va répondre à ses choix. Et donc, pendant les nombreux échanges que nous avons eus, je faisais mon petit test de mon côté afin de voir quelle serait la meilleure distribution à utiliser pour moi en tant qu'utilisateur un peu lambda de Linux, hein, qui n'est pas un grand fan des lignes de code et qui aime bien une interface simple et un magasin d'applications quasi intégré, même si je sais faire un sudo apt-get install et un sudo apt-get upgrade. J'aime bien les distros stables. Et donc, par le plus grand des hasards, j'ai fait mon test et deviné quel résultat est tombé sur la distribution qui me conviendrait le mieux.
Bah, moi, j'ai essayé ton site. Et le premier truc qui m'a paru bizarre, c'est qu'il ne recommande pas une distribution, il donne une liste de distributions.
Ah bah moi, il m'en a recommandé une. Ah non, il m'en a recommandé une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, ah ouais, huit. 9, 10, 11,
ouais,
12.
Il leur recommande beaucoup.
Mais
c'est dur de faire un choix.
Ouais, mais il te met quand même celle qui a le plus de points positifs en premier.
Ok.
Ah, c'est pour ça que moi je me suis basé sur celle qui est en haut de la liste.
Pas sur Ubuntu.
Non. Pas loin. Pas loin. C'est Linux Mint. Et comme par hasard, je suis sur Linux Mint. Donc, comme quoi, j'étais. Après, en deuxième choix, c'était Zorin OS. Et Elementary. Et toi, t'as trouvé quoi, Morgane, pour tes utilisations, vu que t'as fait le test?
Moi, en premier, il m'a mis OpenSUSE.
Oui.
Ouais, je suis pas trop surpris.
Bah, je l'avais essayé il y a plusieurs années, j'avais pas kiffé parce qu'il reconnaissait pas mon driver Wi-Fi. Donc à partir de là, j'ai allé sur une autre distribution.
La base.
Ouais. En deuxième, il m'a mis Deepin. C'est vrai que Deepin, je suis fan. J'étais vraiment très très.
C'est pas chinois, la chinoise là, ouais, c'est qui monte assez bien en ce moment.
Elle est jolie, franchement, il faut le dire, elle est jolie. Pourtant, c'est marrant parce que Deepin, ça se veut proche quand même de macOS. Et quand il m'a posé la question, est-ce que tu préfères une interface Windows ou une interface macOS, j'ai répondu macOS.
Ah bah voilà.
En troisième, il me recommande Devian, le Debian sans système D. Là, pour moi, c'est hors sujet. Et celle que j'utilise, moi, du coup, c'est Manjaro. Et Manjaro, il me la met dans les 15e position, je pense.
Ah oui, bon. J'ai pas regardé au-delà, moi. Mais ouais, alors moi, c'est marrant parce que j'ai pas coché SystemD parce que sur le coup, je connaissais pas.
Non, il n'y a pas la question SystemD.
Si, il y avait une question. Moi, j'avais une question sur SystemD. Et dans les défauts, il me dit, je peux pas. Il dit, il me met une longue liste, hein. Par exemple, pour Mint, il y a 3, 6, 9, il y a 11 points positifs. Les autres, ils en ont entre 10 et 8, tu vois. Et à chaque fois, bah, le défaut, c'est système D, tu vois. Parce que comme je connaissais pas, je vais pas le cliquer, je vais pas accepter. Et par exemple, alors c'est marrant parce que il me met en cinquième position, je dis, bah, je veux jouer. Moi, j'avais mis dans mes critères, je veux jouer. Et il met Devuan. D-E-V-U-A-N.
Ouais, c'est ça, c'est Debian sans système D.
Voilà. Mais il met la version des programmes ne peut peut-être pas être suffisamment à jour pour les jeux. Tu vois, c'est marrant. Et Knopix, non optimisé pour les jeux. Tu vois, donc malgré tout. Et alors par contre, Ubuntu 9e. J'ai pas compris. Parce que le seul défaut qu'il met, c'est utilise système D.
Du coup, après, un petit site pour t'aider à choisir une distribution, ça a l'air, avec les résultats. Mal, après,
Ouais. Tiens, l'Ubuntu aussi. PC Linux OS.
Tu l'as testé, toi, jeune, par curiosité?
De quoi, le site?
Ouais, ouais, pour voir ça. La distro qui te proposait.
Je suis en train, là.
Ah. Alors, Deepin, il me l'a mis en 12e position. J'aurais cru parce que c'est vrai que Deepin avec l'interface proche de Rocky Linux, 100% compatible avec Red Hat Enterprise.
Ouais, il me l'a mis aussi, Rocky.
Ouais, tu vois. Debian, bah, je comprends pas pourquoi il met Debian parce que Debian pour les jeux, je suis pas sûr. Hein. Vu qu'ils sont très stables, les pilotes cartes graphiques, tout ça, je sais pas. Hein.
En tout cas, ça propose des distributions. Au pire, ça permettra d'en découvrir.
Ouais,
moi, j'ai trouvé que le pour ma part, en tout cas, donc toi, ça a bien marché parce que t'as mis Manjaro en premier. Mais moi, ce qu'il m'a proposé, c'était, je trouvais ça franchement bof. Bah, ouais. À côté de la plaque.
Alors, moi, j'ai mis bootable sur USB aussi. Hein.
Ah ouais, mais tu choisis des critères.
Bah, oh, moi je veux.
Mais ça c'est pour l'anonymat. Bootable sur USB, c'est pour l'anonymat. C'est le mec qui branche avec les USB.
Ouais, en clair, il voulait savoir si tu voulais TailOS quoi.
Ouais, c'est ça.
Bah non, c'est parce que moi je veux tester avant.
Mais toutes les distributions Linux sont testables. Si tu veux.
Mais je ne veux pas récupérer le mot de passe admin du PC sur Windows. Pas du tout.
Ouais.
C'est toujours faisable.
Alors, je sais pas comment ils ont fait leur système, mais...
Alors, John, toi, t'es tombé sur quoi?
Alors, la première qui me conseille, c'est Arch. Ensuite, c'est Gentoo.
Ouais.
Ensuite, c'est Artix.
Ouais.
Ensuite, c'est Crux.
Ouais.
Ensuite, c'est Void. Et ensuite, c'est Debian.
Et Debian, que tu utilises.
Et ensuite RHEL.
C'est celle que tu utilises.
RH, c'est Red Hat, ça.
Ouais.
Ces derniers temps, celle que j'utilise en vrai, c'est du macOS. Plus Fedora.
Ah ouais, c'est très Linux, ça.
Bah, c'est Unix.
Ben, figure-toi, que mieux de rien, macOS, il y a pas mal de... Il y a pas mal de petits avantages, et notamment il y a eu le script ACI Linux pour macOS. Ça fera partie de mes geekages bientôt.
Ouais.
Toi qui étais un fan de. Je te coupe, hein, pardon, mais toi qui étais un fan de Oh My Bash, là, tu voulais pas du tout passer à ZSH, sachant que le Bash par défaut de macOS, c'est ZSH. T'as dû être bien content là de pouvoir installer Oh My ZSH.
Ouais, clairement.
Et tu peux voir qu'il est mieux que Oh My Bash, quand même.
Oui, c'est vrai, il y a quelques petites trucs.
Déjà, pas l'autocomplétion casse sensible, c'est un no-go pour moi. Hein.
Bah, après, ça on s'y fait, mais après, c'est plus l'environnement Mac qui est assez, assez déroutant. Je suis pas malade, c'est pour le travail. Il s'avère que... À mon travail, ils ont durci les règles de sécurité et j'avais de plus en plus de mal à utiliser mon Linux comme il faut. Donc, entre la peste et le choléra, j'ai choisi la peste. Donc, je suis parti sur Mac pour éviter d'utiliser Windows. il boot beaucoup plus rapidement que le Windows. Et ma foi, je fais à peu près tout, sauf niveau émulation, VirtualBox, tout ça, vu que c'est un M1 que j'ai pris il y a quelques petites déconvenues, on va dire, au niveau de ça.
Mais, et les 8 heures d'autonomie, t'en penses quoi?
Ah ça, non, ça par contre, c'est le feu.
C'est, ouais, tu reviens plus en arrière après, hein, franchement.
Bah, par contre, tu vois, maintenant, je peux très bien faire la comparaison avec mon Huawei qui est sur Fedora, qui était donné comme concurrent au MacBook. Et effectivement, les deux sont très proches. Autonomie et... comment dire? Tout le côté matériel, l'équilibre des deux est vraiment très proche, quoi. Le seul truc qui me manque sur la Fedora, bah, c'est le pilote audio qui soit reconnu comme il faut. Mais voilà, donc du coup, bah, j'ai les deux avec mon MacBook et mon Huawei. Là, ça me fait à peine le poids du ThinkPad normalement professionnel que je devrais utiliser. Sachant que bah, j'en ai un où je suis. Les deux, je suis full administrateur, mais j'en ai un où je peux bah, faire tourner des distros un peu plus puissantes et pas que de l'ARM, contrairement bah, au Mac, où bah, pour tout ce qui est virtualisation et tout, c'est un peu compliqué. Sinon, il faut payer je ne sais combien pour...
Ah, t'as le Docker quand même, c'est pas de la virtualisation, je sais, mais...
Ouais, mais t'as pas la même liberté. Avec Docker. Et d'ailleurs, non. Moi, j'utilise Portman.
Oh, je sais pas, j'utilise Docker. Parce que je sais que, par exemple, bah, toi, tu dois faire, t'es un peu DevOps, là. Bon, on dévie, hein. Je vais m'arrêter là, mais...
Ah, allez-y, messieurs, allez-y, allez-y. Je vous laisse 5 minutes de déviation.
Voilà. Tu vois, on va parler entre utilisateurs Mac, là. Moi, toi, tu fais du DevOps un peu, j'imagine. Je sais pas si tu fais du Terraform. Moi, je fais du Terraform, là, avec AWS. J'écris mes modules et puis j'ai mon module qui essaye de se connecter à Vault. Vault, c'est un truc qui gère les secrets. Ouais. Je vulgarise rapidement là. Et ben il est pas compatible le M1. Du coup, ben, ce que je suis obligé de faire, ouais. Je suis obligé de lancer mes scripts Terraform dans un Docker Linux pour mes scripts Terraform, ils fonctionnent. Ça fonctionne pas sur Mac comme ça.
Là, la
virtualisation, bah, c'est pas de la virtualisation, je sais, mais ça marche bien en tout cas.
Là, CI/CD, monsieur.
Oui, mais CI/CD, tu peux pas tester en local. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu fais un commit, t'attends 20 minutes que ça soit exécuté, quoi.
Oui, mais tu peux très bien faire une CI/CD en cloisonné. Enfin, dans un dépôt à part pour les tests.
Ouais, mais parce que nous, elle est partagée à toute la boîte, à toute la banque, là. Donc, c'est des Jenkins avec des machins qui pop. T'es dans la liste d'attente. Après, ça lance des images Docker, ça se connecte, ça télécharge l'image, blablabla. Ça met du temps, quoi.
Ouais. Et puis, si tu te forces sur un truc, tu.
Voilà, c'est 20 minutes de feedback. Dessus,
ça lève un drapeau. Il y a le monsieur de la sécurité qui vient te voir.
Enfin, voilà. Bref, ça pour dire, ça marchait bien. On peut changer de sujet. Je sais pas si quelqu'un d'autre a d'actualité.
Non, j'ai pas d'actualité. J'ai du geekage et deux recommandations. Alors après, celui qui veut
moi,
faire
j'ai
sa
une
recommandation.
Actualité.
Allez, vas-y, continue.
Bah, j'en ai deux même en fait.
Allez, vas-y.
Bon, bah je prends trop de paroles. Je vais peut-être en enlever.
Mais tu sais que ça me fait plaisir parce que j'ai souvent l'impression de monopoliser la parole. Et
oh
c'est
bah
pour ça que des fois j'ai un petit ras-le-bol d'animé, donc je suis content que vous parliez plus que moi pour une fois.
Ah, bah ok, bon bah, ça tombe bien. Je vais aller vite pour celui-là, c'est parce que je vais en reparler juste après. Bah, l'UE réimpose une amende de 400 millions de dollars à Intel pour abus de position dominante sur le marché. Donc une première amende. De 1,06 milliard d'euros a été déposé en 2019 au tribunal d'Europe, là. Et celle-ci a été révisée non pas à 1,06 milliard, mais à 400 millions. Donc beaucoup moins. Mais voilà. Attends, j'essaye de voir dans la news, est-ce qu'elle est effective, cette amende? A toutefois convenu la commission que, inciter l'organisme, la décision de 2009 accusait Intel de bloquer son rival Advanced AMD. Vendredi, l'autorité de surveillance a déclaré qu'elle avait réimposé une amende. Oui, donc à mon avis, ils vont devoir payer. Donc c'est bien, les gars, on est en 2023, une amende de 2006, pardon, pour entre 2002 et 2006, en gros, AMD, Intel qui payait les fabricants pour utiliser de l'Intel et pas de l'AMD. Pendant 5 ans, 4 ans, ils ont payé tout le monde pour dire utilisez des puces Intel, n'utilisez pas des puces AMD. Et maintenant, AMD ont réussi à passer outre, là. Mais donc, en 2009, ils se sont pris une première amende de 1 milliard, elle a été revisitée à 400 000, et maintenant, ils doivent payer. Puis on est en 2023, donc presque 10 ans après, 15 ans après. C'est bien, on paye enfin. 15 ans après. Donc, ça, c'est la lenteur de l'administration européenne. Et bon, j'ai envie de dire, pratique rien d'anormal, quoi. Je veux dire, on s'en bat les couilles des règles, je deviens numéro 1 du marché, je perds de l'argent, et puis dès que je suis en position dominante, je fais ma loi. Quitte à payer les amendes après, de toute façon, c'est pas grave, j'ai gagné tellement d'argent. Ce que Microsoft a fait, ce que Intel fait. A fait, puisque oui. Plein d'autres ont fait.
Et puis en ce moment, Microsoft, ils aiment bien se mettre un peu dans le caca avec leur rachat de studios qu'ils peuvent pas valider, etc. Qui font des Tetris avec d'autres procès, qui demandent l'accord d'autres pays pour être sûr qu'ils vont pas avoir un monopole sur le marché du jeu vidéo, etc. Donc, tant qu'ils y sont, ils continuent à se mettre dans le caca eux-mêmes avec leurs problèmes juridiques.
Bon, voilà, petite news. Dans notre... On va
prétention.
Avec la deuxième. Toujours Intel. Est-ce que vous avez entendu parler de Meteor Lake?
Moi, je pensais que c'était fini. Intel, que AMD est en train de défoncer le game.
Meteor Lake, bousculé par Apple, Intel lance sa plus grande révolution depuis 40 ans. Alors, je vais pas faire celui qui s'y connaît.
C'est comme le PSG, vends-nous du rêve.
Bah non, justement, je vais pas faire celui qui s'y connaît beaucoup là, parce que la vérité, c'est que je m'y connais pas grand-chose en processeur là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ils sont passés à un nouveau procédé de fabrication pour ces nouveaux processeurs Meteor Lake. Et en gros, ils vont réussir à empiler les puces. Les mettre les unes sur les autres. Avant, ça, c'était réservé aux serveurs pro, puis ils l'ont réussi à le rendre grand public. Et en gros, le fait d'empiler les puces, ça va permettre de doubler la capacité de calcul. Mais surtout, ils sont passés à une nouvelle technologie qui s'appelle les tiles, un processeur en tranche. Et en gros, donc on a commencé à parler avec John tout à l'heure quand on parlait des Mac d'avoir 8 heures d'autonomie sur les ARM et tout, que moi je pouvais pas revenir en arrière. Bah ça y est, Intel ils s'y mettent aussi. Ils ont compris le message que Apple avec leur puce M1, ils ont tout défoncé le game. Et eux aussi ils veulent se mettre à avoir de la très basse consommation. Et donc en fait ils ont réussi à inventer des processeurs qui découpent je traduis en français, en tuiles. C'est-à-dire que ton processeur, si t'imagines une plaque à 100%, bon bah sauf qu'il y aura plusieurs plaques empilées, mais une plaque 100%, on va dire que c'est 10 tuiles. Et ben en fait, ils vont réussir à se rendre, pour alimenter ton processeur, donc tu vas mettre à gauche ton fil, à gauche ton plus, à droite ton moins. Et ben en fait, ils ont réussi à faire quelque chose. Alors si je grossis, mais je suis même pas sûr d'avoir compris correctement, hein. Donc tout ce que je dis est à prendre avec des pincettes et c'est de la grosse vulgarisation. Mais en gros, c'est découpé. Ils ont fait donc une technologie de tuiles. Donc ton processeur, ta plaque, elle est 100%, elle est coupée en 10 tuiles. Et bah, si tu utilises pas beaucoup de processeurs, au lieu d'alimenter le processeur en entier pour en utiliser très peu, tu vas aller alimenter 10% de ton processeur, juste la première tuile. Et ça va te consommer beaucoup moins d'énergie que d'allumer le processeur en entier. Et tu vas consommer que ce que tu consommes. Si tu consommes un peu plus, il va allumer la deuxième tuile et il va consommer un peu plus d'énergie. Et tout ça, ça leur permet économiser énormément en énergie. Alors, on verra dans la réalité ce que ça donne. Est-ce que ça tient aussi bien qu'une M1, une puce M1 ou pas? Mais là, moi, ça y est, je suis à nouveau excité par Intel. Parce que franchement, depuis les i3, i5, i7, là, ils ont jamais rien fait de nouveau. Ça fait 10 ans que j'attends. 15 ans que j'attends. Troisième point qu'ils font. Donc, j'ai dit que première chose, c'est qu'ils superposaient. Permettrait d'avoir plus de puissance de calcul. Ils superposent les, ils ont réussi à rendre grand public. Deuxième chose, ils ont une technologie de tuiles pour, en gros, consommer au fur et à mesure de la demande. Et troisième, ils intègrent des NPU d'intelligence artificielle, ou c'est-à-dire tous les trucs de, bon, maintenant, il n'y a pas une news tech sans qu'on parle d'intelligence artificielle, là, depuis ChatGPT. Mais, eux, ils ont fait, par exemple, un test avec Stable Diffusion, c'est un truc générateur d'images. Bah, par exemple, entre utiliser leur processeur avec la puce de réseaux neuronaux intégrés et un CPU, il y a un rendement, il y a une amélioration de performance de quasiment x8, quasiment x2 par rapport à un GPU. Donc on se rend compte que le rapport énergie-calcul commence à devenir extrêmement intéressant. Ah, il y a un petit bruit en fond. En tout cas, on commence à atteindre un ratio très intéressant, et en plus on intègre les puces de réseaux neuronaux. Alors ça, je ne sais pas encore si l'intelligence artificielle embarquée, c'est vraiment l'avenir. Là, tout le monde va avoir des logiciels d'intelligence artificielle sur son PC en local, je ne sais pas, ou si on va passer par des serveurs, je ne sais pas comment ça va se profiler. En tout cas, Intel, lui, anticipe la chose et rajoute des puces d'intelligence artificielle dans ses processus. Donc moi, là, quand je vois les news du... Oui, bon, bah, il va y avoir tous les trucs de décodage vidéo qui sont intégrés, la V1, le HDMI, le HDR, le 8K et tout ça qui vont être mis au niveau des processeurs, ce qui fait que ça, au lieu d'avoir un logiciel qui est... pour lire de la V1, de l'HDR et tout ça, là, au lieu d'avoir un logiciel qui s'exécute sur ton processeur pour lire, donc il y a des pertes d'énergie, tu vas avoir l'algorithme directement implanté dans ton processeur, ce qui fait que ça s'exécute électriquement et plus rapide. Donc voilà, beaucoup d'améliorations, et franchement, quand je vois les Meteor Lake, ça me donne envie de racheter des processeurs. Ça, enfin, je vois des choses qui ont l'air vraiment intéressantes chez Intel depuis... C'est plus les énièmes évolutions de l'i3.
Il va refaire sa petite tour dans son coin avec son petit ventilateur,
bah, ça CSSD, donne envie, ouais.
Sa RAM, son bloc d'alim. Ouais, c'est vrai. Bon, après, mais c'est bien que ça, et puis même ça va dans le sens de la marche où quand tu vois les PC, ce que ça consomme, bah, il y a de plus en plus de consoles, bah, dans le gaming, hein, tu vois que le marché de la console, il marche mieux par rapport au PC. Pourquoi? Parce que les cartes graphiques, ça bouffe de l'énergie. Et donc, si tu t'as un pro, c'est une carte graphique qui bouffe moins d'énergie, bah, à un moment donné, ça va être plus intéressant aussi. Et je pense que tu as raison dans ce que tu viens de dire aussi, Morgane, dans le sens où, ouais, ça donnera peut-être envie de se refaire des petites configs, tu vois. Dire, tiens, on va voir pour tester, Après, faut espérer que ça baisse un peu, parce que je sais pas comment ça se passe en ce moment le marché des cartes graphiques, si ça a bien baissé ou pas. Mais à un moment donné, c'était show the night. Voilà. Ah tiens, ça me fait penser que j'ai un nouveau geekage. Voilà. John, est-ce que tu as un geekage?
Ouais, et toi, ça te donne pas envie de... Que John et moi, on a coûté au Mac? Mac M1, on sait ce que c'est que de pouvoir travailler toute la journée avec son Mac sans le brancher.
Oui.
Et sinon, toi, avoir que 2 heures d'autonomie maximum sur ton PC portable, c'est pas quelque chose qui te dérange?
Pas du tout. Alors là, pas du tout. En fait, comment dire...
T'emballes jamais avec ton secteur
Bah non, parce qu'en fait, c'est rare que je sois vraiment mobile avec un PC. Je suis souvent posé, donc l'un dans l'autre, voilà quoi... Je crois que la dernière fois où j'ai vraiment utilisé longtemps un PC en dehors de chez moi sur batterie, c'était dans un train. Donc, et j'avais qu'une heure de trajet, tu vois. Donc, c'était pas. Après, je dis pas, j'ai jamais goûté. Peut-être que si un jour, on me dit, tu vas voir ton PC avec cette nouvelle, le Pro Intel, tu vas voir. Ouais, je dis pas. Mais en fait, moi, je suis beaucoup sur PC. Presque, je dirais presque semi-fixe, parce que là, je suis sur un portable, mais le portable, il est branché en HDMI sur un deuxième écran, j'ai un clavier, j'ai une souris en USB, donc tu vois, C'est juste un pros avec un écran qui alimente un deuxième écran, tu vois. J'aurais là où je suis actuellement dans mon nouveau travail, c'est des mini PC. Bah, j'ai l'impression d'avoir la même config, tu vois. Ça, c'est juste que là, le mini PC, je peux l'emmener avec moi. Tu vois, c'est pas. Alors, je dis pas. Peut-être que oui, si j'y goûte, pourquoi pas. Mais bon, déjà Mac, j'ai jamais goûté, j'ai jamais testé vraiment, que ce soit pour les téléphones ou leur laptop. Parce que un, je trouve que c'est cher, et deux, que hormis l'autonomie, je vois pas le confort que t'as. Alors quand vous me dites ouais, on peut plus maintenant, il y a des menus, des interfaces de commande, ouais. Mais moi, par mon activité professionnelle, je suis de plus en plus dans l'environnement Microsoft et cloisonné dedans. Donc je m'ouvre pas l'esprit là-dessus. Puis même en Ocas, tout ça, c'est assez cher pour ce que c'est. Non. Voilà, je sais pas. Non, je suis bien avec mon petit Gripa, Lenovo IdeaPad 330S sous Linux qui fera ses 4 Go de RAM, il va très bien. Et moi qui passe ma journée à faire du SQL, bah c'est le serveur qui travaille, c'est pas moi. Hein. C'est pas le mini PC hein, donc voilà, hein, je veux dire moi, je suis plus dans le requêtage, je suis pas dans le dev, hein, donc voilà, hein, j'interroge le serveur, hein, donc j'ai pas besoin d'une config extraordinaire. Donc, mais bon, je suis ni pou, je suis. Ça m'en touche une sans toucher l'autre, tu vois.
Ok, ok. Bon.
Voilà. C'est pas. Parfait. Ouais, c'est pas.
Passons au geekage alors.
Ouais, voilà. John, tu avais un geekage.
Ouais.
Ça fait longtemps que tu n'as pas parlé, je te laisse la parole.
Bah, quitte à faire autant le faire jusqu'au bout. Et bah voilà. Alors, en plus avec l'actualité toute fraîche, ça fait doucement plus, ça fait encore plus rire. Et le bruit du pigeon va être plus fort. je me suis offert un Raspberry Pi 4.
T'as pas attendu le 4 5 gigas.
Bah, je l'ai reçu 2 jours après, il y avait l'annonce du leak du Raspberry Pi 5.
Je comprends mieux le pigeon.
en plus, il a payé 150 balles, je parie.
Bah non, il n'y a pas eu de promo, rien. Ça faisait un moment que je l'attendais.
150 balles.
Ouais, je crois, quelque chose comme ça. Sachant que je me suis pris un kit avec pour en faire un NAS, et finalement ça m'a fait un petit kit d'expérimentation pas mal. Tout ça a commencé par il y a quoi, 2 ou 3 semaines, j'ai été équipé de la fibre. Et donc, je me suis dit, bah super, je vais pouvoir réutiliser mon vieux Raspberry Pi. Je me remets un petit peu, j'ai rebranché la Pirate Box. Au moment de passer à Pirate Box, qui de base, je rappelle, elle était sous Arch Linux. Je galère pour retrouver l'image parce que le forum a fermé depuis, etc. Enfin bref, je tombe sur le repo officiel qui était juste en lecture seulement. Je télécharge l'image, la mets, et là je veux mettre à jour parce que je voulais jouer avec un petit peu Python par rapport à ça. Ça sera une de mes 2 recommandations. Tout est imbriqué pour cet épisode. Bref, je veux mettre à jour pour installer Python 3, et là, impossible. Je m'aperçois que les repos sont fermés. Donc je dis bon, bah je vais changer de projet, je vais regarder autre chose. Et je fais le tour des projets. Et je m'aperçois que bah, contrairement, ça fera mon petit coup de gueule en même temps. Contrairement à l'idée de base du Raspberry Pi qui était réutiliser les vieux systèmes, etc. C'est devenu un gadget. Vraiment l'équivalent de... Moi, je mettrais au même niveau que les cartes graphiques. À savoir que bah voilà, dès qu'il y a la nouvelle génération qui est sortie, les autres, elles ne servent à rien. Tous les projets, la plupart des... Enfin, ouais, on va dire tous. La plupart des projets que j'ai regardés, le minimum, c'était un Raspberry Pi 3 qui demandait. Voilà, même pour des trucs qui tournaient avant sur le Raspberry Pi 2 que j'avais en 512. Par exemple, OnCloud et Nextcloud, maintenant, c'est les deux demandent minimum un Raspberry Pi 3, modèle B. Donc, bref, j'ai remonté ma Pirate Box, j'ai joué un petit peu avec, j'ai branché ma clé USB. Et puis, bah, finalement, en regardant les autres projets et tout, je dis bon, bah. Maintenant que j'ai la fibre, je me montrerai bien un petit serveur de stockage, un petit NAS, etc. Je regardais les tutos, etc. Ce qui était disponible. Et là, je vois un truc qui attire mon attention avec du Docker, du Portainer. Je dis, ah, ça pourrait être pas mal. Je dis, ah, faut un Raspberry Pi 4. Bon, allez. Donc, je me prends le Raspberry Pi 4 avec ce fameux kit tout équipé, ou presque. Du coup, il y a un adaptateur dedans, c'est un kit en ABS. Il y a un petit ventirad dessus, alors ça aussi, quand je pense qu'on se foutait de ma gueule à l'époque. On m'a dit ça servait à rien de mettre un ventilateur sur un Raspberry Pi. Et maintenant ils sont tous équipés de minimum des dissipateurs et pour la plupart des ventilateurs. Voilà. Donc bref, en gros, c'est un mini kit pour NAS que j'ai pris. Donc l'ABS, il y a un écran OLED devant qui est configurable à souhait. Le ventirad qui est dessus, c'est un RGB. Paramétrable à souhait aussi. Qu'est-ce qu'il a? Il a un adaptateur M2. Du coup, bah, quitte à faire rourou, j'ai fait rourou jusqu'au bout. Je me suis pris un 2 Tera de SSD avec pour la partie stockage. Il a un petit. Ça, j'ai bien aimé par contre. Il peut être utilisé pour plein de trucs, bien qu'il soit vendu en tant que NAS. Dans le kit, il y a un adaptateur pour le port GPIO coudé, ce qui fait qu'on peut l'utiliser à travers le boîtier qui tient le Raspberry Pi dedans. Donc voilà, donc après on va pouvoir mettre GPIO, le capteur d'humidité, etc. Enfin bref. Utiliser à 100% les ports GPIO du Raspberry Pi. Donc c'était pas mal. J'ai mis le lien du wiki parce qu'il y a les photos dessus et il y a l'explication de comment lancer et faire l'install en gros des différents pilotes pour bah, le RGB du ventirad ou le panneau LED OLED panneau d'affichage devant. Mais bref, moi ce que j'ai fait, j'ai commencé, j'avais installé Debian tout court, j'ai installé aussi Nextcloud, j'avais 2-3 tests à faire. Et là, depuis avant-hier, j'ai installé Pi Hosted. Et qu'est-ce que c'est Pi Hosted? C'est donc un serveur basé sur Portainer. Portainer qui est, comment dire ça? C'est une interface graphique où on peut paramétrer et utiliser Docker, des images Docker. Pas forcément Docker, ça peut être du cube, ça peut être pas mal de petites choses. Et donc, bah, j'ai testé le Pi Hosted. Il y a un répertoire assez conséquent d'applications déjà, qui sont déjà tout prêtes, containerisées et documentées pour utiliser avec le Pi. Donc voilà, il y a un petit peu de tout. Ça va de serveurs de base de données à des outils multimédia. On peut installer Nextcloud par-dessus ou Nextcloud Pi, parce qu'il y a deux versions. Il y a Nextcloud tout court et il y a la communauté Nextcloud qui sont mis à développer leur propre image basée sur Debian pour le Raspberry Pi. S'appelle Cloud. Donc voilà, il y a. Tiens, juste pour rigoler, je vais regarder en direct le nombre d'applications qu'il y a dans le template quand on suit la doc. On est à. Ouais, une centaine d'applications différentes. On peut faire un serveur Mumble, tiens. Un main test, un serveur main test, un serveur Minecraft. On peut un gestionnaire de recettes de cuisine, MariaDB, un gestionnaire multimédia. Enfin, il y a toutes les applications qui existent en Dockerfile, on peut les lancer. Je peux faire un serveur Plex, une station météo, lancer Piol. Voilà.
Quel est l'intérêt de faire un serveur
Plex, aucune idée, mais voilà, c'est là. On peut faire aussi
Je dis ça parce que
du.
récemment, il y a une news comme quoi ils ont arrêté le streaming illégal.
Ouais, bon après, voilà, hein. C'est du Docker, donc c'est pas ça qui va t'arrêter. Ils peuvent arrêter s'ils veulent. Tu peux le faire. Tu peux
Ouais,
faire
j'ai
un
compris que le
serveur
logiciel,
DDL.
il... Bon, après, je sais pas, hein, j'ai pas... Mais moi, ce que j'ai compris, c'est que le logiciel Plex, il analysait le flux vidéo pour voir si c'était des trucs sous...
Sous
Et tu vois,
copyright,
il t'empêchait de le...
ouais.
Ouais, sous copyright, il t'empêchait de le broadcast à l'HDMI, quoi.
Bah, ouais. Mais en tout cas, ouais, Porteneur là, enfin le Pi Hosted, c'est vachement cool. Le mec qui a fait ça là, c'est assez ouf. Sachant que pour toutes les applications qui sont dedans, enfin les différents ports. Quand il y a des choses complémentaires à faire, elles sont documentées en même temps. T'es vraiment pris par la main pour le faire. Je viens de voir qu'il y avait un truc Windows 2000 d'ailleurs en conteneur. Ok. Tu peux faire ton propre service Spotify. Yoast, un web interface. For managing Docker container with an authorized template to provide one-click development. Ok, donc ça c'est un autre partenaire. On peut faire un wiki. Enfin bref, je ne saurais compter le nombre d'applications qu'il y a, qu'on peut installer et faire tourner sur Docker. Et. L'avantage aussi de ce Pi Hosted, c'est qu'il y a déjà les Dockerfiles qui sont donc dans les dossiers d'exemple pour afficher les différentes informations sur le lecteur OLED LCD OLED qu'il y a devant, de face, sur le boîtier du Raspberry Pi. Et aussi pour gérer le ventirad RGB. Donc voilà. C'est. Je vois qu'il y a du Proton Mail. Ah oui, ça c'est pour faire le pont. Ok. Faire du passbin privé. Donner, il y a ce qu'il faut. Voilà. Il y a un système de tri c'est pas mal, ça fait vraiment comme un App Store classique en interne, c'est marrant. Tu peux mettre par antivirus, bah tiens, je vais mettre antivirus, bah il y a un Clamav qui est dispo. Ok, il y a des trucs pour les imprimantes 3D, pour les backups, il y a 2, 3, 4 applications pour la gestion des backups, pour les e-books. Il y a du Calibre Web, du COPS, du Gazi, alors ça c'est pour les comics, ok, les e-librarian, enfin bref, il y a full de conteneurs Docker qui sont déjà pré-configurés, d'où le app template, pour tourner sur le Pi en version OST. Il y a de la gestion de flux RSS, enfin bref, de la caméra de sécurité, il y a un Home Assistant, on peut installer Home Assistant aussi dessus, le faire tourner, ainsi que d'autres briques comme Domotix, enfin bref, c'est plutôt pas mal. J'ai pas fait le tour de tous les trucs qu'il y avait dessus, mais ouais, clairement ça va être les prochains joujoux là des jours à venir.
Beaucoup de geekage à venir, c'est l'impression.
Ouais. Et pour le coup, bah je recommande vraiment le boîtier, il est vraiment quali. J'étais, en fait, je l'ai pris parce qu'il y avait l'adaptateur tout près, etc. Mais bon, j'étais pas vraiment convaincu, j'étais pas je m'attendais pas à grand chose quoi. Et bah finalement j'étais surpris de la qualité globale de tout le... et voilà, ça tourne bien. Donc, ouais, plein de geekage à
venir. Pas un ratio de x2 entre le 5 et le 4.
En termes de consommation, oui.
Ah ouais. Ah ouais, donc tu pourras avoir un truc deux fois plus puissant.
Ouais.
Bah après, normalement, c'est les mêmes tailles de board, non? Donc tu peux...
Ouais.
T'as tout le matos qui est compatible, t'as juste le... Toi, t'as payé 150 balles, mais t'as payé tous les accessoires avec.
Oui, mais bon... moi, ce qui me fait chier, c'est surtout qu'à la base, bah, mon ancien, par exemple, je pouvais le mettre au cul de ma box internet via l'USB. Et ça y est, tu vois. Le Pi 4, si je veux l'utiliser en RJ45 au cul de ma box, bah, il me faut une autre prise. Parce que ouais, c'est du 3 ampères.
C'est ce que j'ai pas vu. Parce que j'ai un projet. Alors, toi, tu es plus au courant. Le 5 n'a pas de prise Ethernet, non?
Si, c'est vraiment...
Ouais, les prises Ethernet, ok.
Ils ont fait... je crois qu'il y a eu deux annonces. Il y a eu comme le Pi 0, là, et le... Pardon. Et le 5... ce que j'ai vu, ce qui m'a vraiment foutu les boules, c'est quand j'ai vu qu'ils disaient qu'il y avait... ils avaient divisé par deux la puissance nécessaire électrique. Ouais, parce que là, on est quand même sur du 3 ampères. pas mal.
On va passer au Meteor Lake.
Bah, c'est ça. Et plus ça va, ils deviennent de plus en plus gourmands. Enfin, voilà. Et surtout, bah, ce qui m'a en fait, c'est surtout de m'apercevoir que, bah, au fur et à mesure, les images des Raspberry Pi classiques, enfin les premiers, ceux qui étaient vraiment faibles en consommation d'énergie, et voilà, et ben, hormis de Debian tout court, en 32 bits, ben, je trouve plus grand chose. Donc, soit tu installes ta Debian en serveur et puis, bah, tu te démerdes pour trouver les autres paquets qui seront compatibles en 32 bits et en ARM, RM6 ou 5, je sais plus. Je crois que c'est 6. Mais en tout cas, ça sert à rien de compter sur d'autres images toutes prêtes pour le Raspberry Pi. Donc voilà.
Ok.
Bon, on attend avec impatience la suite du Raspberry.
Bah oui, la saga, je crois que ça va être une saga. Hein. Ça va être une saga sur 20 épisodes, j'ai l'impression. Ok, bon, on va pouvoir enchaîner sur un geekage. Bon, est-ce que tu as envie d'enchaîner sur tes geekages, Morgane?
J'ai l'impression que t'as pas beaucoup parlé depuis longtemps. Enfin, que t'as pas parlé depuis longtemps et que t'es la personne qui a le plus de geekage.
Oh non, alors ça va. Ouais, mais moi ça va aller très très vite. Très très vite. Moi, tu sais, moi je suis.
C'est toi qui es en rouge ou en. Parce que j'ai l'impression que c'est John qui est en vert sur le.
Oui, ça va être John en vert. Je sais pas pourquoi il a mis en vert alors que je suis le rouge, mais je crois que j'étais vert au début. Alors, qu'est-ce que je vais parler? Je vais parler d'un geekage qui vient de se passer et qui a fait qu'on a commencé très tardivement l'enregistrement par rapport à l'horaire prévu. Donc, j'ai récupéré un casque de la marque Jabra il y a quelque temps, puisque c'était le casque que j'avais dans ma mission précédente et qu'on m'a gentiment donné au bout de 6 mois de bon et loyaux service. Et c'est un casque qui fonctionne et en Bluetooth et en USB. Et donc, je vais une machine que je voulais tester. Je voulais tester ce casque sur une machine qui était un PC sur Windows. Tiens, je vais le tester. Et bah en fait, à chaque fois que je voulais me connecter à Mumble via ce casque, ça se plantait directement. Et pourquoi je voulais aussi enregistrer sur ce PC sur Windows et non pas sur le Linux, quitte à me faire flageller sur la place publique, c'est parce qu'en fait sur mon Linux, à chaque fois j'ai des problèmes sur la partition var qui se remplit à chaque fois que j'enregistre ou que je veux faire une module dans Audacity. À chaque fois, mon fichier est plein, mon disque et cette partition est pleine. Donc, je suis un peu dans le caca à chaque fois. Donc, bref, je vais essayer sur le Windows, je serai un peu plus tranquille. Et bah, finalement, à chaque fois que je connectais Mumble et que je disais, je veux que tu te connectes sur le Jabra pour l'entrée comme micro et la sortie casque, et bien, à chaque fois, ça plantait. Donc, il a fallu que je ressorte mon bon vieux Lenovo sur Linux qui a maintenant plus de 6 ans de bons et loyaux services et qui fonctionne toujours aussi bien malgré mon problème de partition de disque dur. Mais au moins, il a reconnu le casque et en Bluetooth et en filaire tout de suite. Donc, Jabra, c'est mieux sur Linux que sur Windows. Eh bien,
j'attendais que tu fasses... du mal parce que j'enregistre avec un Jabra sur mon Linux et sur Mumble, alors j'attendais que tu dises que ça marche pas, j'aurais été étonné.
Non, ça marche, ça marche très bien, voilà. Et je vais enchaîner sur une antiquité puisque c'est un Huawei P20 que j'ai reconditionné. Il a jamais vraiment été perdu dans son, il a jamais vraiment traîné au fond d'un tiroir puisque il m'a servi de GPS vélo. Et il y a quelque temps, ma femme se plaignait régulièrement que son téléphone Xiaomi sous Android était quelque peu lent. Et c'est vrai que des fois, il est arrivé à mettre quelquefois 20 secondes avant de lancer un simple appel téléphonique. Donc, j'ai dit, écoute, je te réinitialise le P20, tu mets ta carte SIM, tu verras bien. Sinon, au pire des cas, je te le change je garde mon bon vieux P20 comme du GPS vélo. Il fonctionnait très bien. En plus, il rentrait pile poil dans mon support pour le donc vraiment top du top pour ça. Et ben finalement, je n'ai plus de GPS vélo parce que 6 ans après, il fonctionne toujours aussi bien. Et alors je pense que la batterie a quelquefois des siennes parce que sur la journée, il va perdre 70% de sa capacité alors qu'il est principalement en veille. Mais bon, pour ce que mon épouse en fait, ça lui va très bien. Elle le charge une fois dans la journée. Ça lui va. Donc,
c'est 20 balles une batterie, je pense.
Sur un P20, ouais, mais tu ne peux pas la démonter. Hein.
Ici, ça se démonte.
Ça se démonte. Ouais, bon, au pire des cas, je lui remettrai une batterie.
Attention à ça, mais ouais. Allez, tiens, je vais raconter aussi un de mes geekages. Je te spoil. je te spoil ta news, là. Mais, ouais. Non, ouais, moi j'ai un Xiaomi. J'ai voulu changer la batterie. Il a 2 ans, j'ai voulu changer la batterie parce que je croyais qu'il était plus aussi robuste qu'avant. Donc, j'en ai acheté une sur AliExpress, $20.
Wow!
Et c'est pareil, tu sais, ça se démonte pas facilement, mais en gros, la technique, c'est tu prends, tu sais, un sac de congélation, tu mets de l'eau chaude dedans à la bouilloire, et puis tu laisses ton téléphone reposer dessus pendant 5 minutes, là, sur le sac de congélation rempli d'eau chaude, ça va ramollir la colle, tu passes un médiateur de guitare, et ça se décolle très facilement, et vraiment, ça se fait facilement après d'enlever.
Ouais.
Donc voilà, ça c'était juste pour dire la technique pour enlever la batterie sur un téléphone qui se démonte
pas.
Et
alors, est-ce que le remplacement a été opérationnel ? Est-ce que ça fonctionne ?
Alors, le remplacement, alors dans le lot, j'ai perdu ma caméra front-end, ma caméra de devant là, qui ne s'active plus. Je pense que j'ai démonté un truc que j'ai du mal rebrancher. Mais surtout, la batterie que j'ai achetée, que j'ai payé $20, elle est moins performante que celle qui avait 2 ans. Donc je suis à peu près persuadé que c'est une batterie. J'ai acheté ça sur AliExpress, hein.
Ouais.
Donc, je suis à peu près persuadé que c'est une batterie seconde vie. Ouais, je suis à peu près sûr. Bah, en même temps, $20. J'ai été con, j'ai pris un moins cher à un moment.
Ouais.
Mais j'ai posté un commentaire assassin sur le revendeur et bizarrement, le revendeur n'existe plus.
Ah bah tiens.
Il a dû supprimer son compte et
sur Amazon, moi. Une fois comme ça.
Bah, vaut mieux sur Amazon, je pense, qu'AliExpress là-dessus.
Le gars, il me dit mets-moi un commentaire positif. C'était un truc qui n'avait rien à voir. Un truc qui n'avait rien à voir, c'était pour des embauchoirs à chaussures. Donc, tu vois, le truc qui n'a rien à voir avec une batterie de téléphone, tu vois. Et donc, j'en commande une première paire. Parce que bon, il faut mieux avoir une paire d'embauchoirs dans ces cas-là. Comme ça, tu mettais deux chaussures en même temps. Et ça, je ne les reçois pas. Je fais une réclamation. Il ne me répond pas. Il me dit, et je reçois un mail d'Amazon. Est-ce que vous voulez commenter ? Je mets une étoile. Je dis, je peux pas, au lieu de mettre zéro parce que j'ai jamais reçu le colis. Et là, bah, il me dit pareil. Ah, mais moi, commentaire positif. Je vais t'en renvoyer de nouveau. Je dis d'accord. Je dis, je modifie pas le commentaire. Je dis, je me le mettrai quand tu m'auras reçu. Je n'ai jamais reçu. Donc, un chinois qui vantait son bouchoir à chaussures. C'est le cousin de celui qui vend ses batteries. On va la faire à l'envers aux Français.
Ah, c'est ça, au blanc bec.
Ouais, voilà. Donc, ça m'a un peu saoulé. Voilà, bah écoute, c'était Georges avec deux geekages, hein, c'est vrai, c'était des recommandations. Donc on peut enchaîner sur la dernière partie parce que je crois que tout le monde a fait ses geekages.
Pas du tout.
Oh, il te restait les tiens alors. Bah vas-y alors.
Moi j'ai fait que les news.
Ah oui, c'est vrai. C'est vrai.
Bon, bah du coup, je vois que l'heure tourne quand même. Alors, je vais essayer d'aller un peu vite.
La course à pied t'attend ?
Ouais, bon. Ouais. Ouais. Bref, je vais vous parler de Wayland. Wayland, vous connaissez, messieurs ?
Non. Ah, ça me dit... bah, le nom me dit quelque chose, on a dû en parler. Mais j'ai oublié.
John ?
Malheureusement.
Pourquoi malheureusement ?
Bah, parce qu'il y a eu quelques petits soucis avec les apps. Normalement, pour la prise de vidéo, tout ça, quoi.
Ah, et il y a encore des soucis ou il n'y a plus de soucis ? Parce que moi, je vais dire qu'il n'y a plus de soucis là dans ce que je vais.
Bah écoute, j'ai pu chercher à en faire. J'ai essayé d'apprendre à me servir du Mac. Donc, je suis resté sur mes acquis côté Fedora, tout ça. Et
Xorg.
Ouais.
Ok. Bon, je vais y aller. Donc, déjà, on va revenir aux bases. Qu'est-ce que Wayland ? Alors, Wayland, c'est un lot de protocoles qui est là pour gouverner de comment est-ce que ton compositeur Windows, ton gestionnaire de fenêtre, va dessiner des choses sur ton écran. C'est un peu comme le HTTP ou le CMTP. Vers le web, là c'est la même chose, c'est un protocole pour afficher des choses sur ton écran. Alors avant, il existait Xorg, l'ancêtre Wayland. Et en fait, pourquoi je parle de ça, c'est parce que Fedora KDE est en train de proposer d'aller dropper le support de X11 pour du full Wayland. Pour du full Wayland dans les prochaines versions, là, la version 40 qui va arriver, je pense, de Fedora. Donc ça veut dire qu'ils ont estimé que Wayland est suffisamment mature pour pouvoir complètement le dropper à X11. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Alors, donc déjà, pourquoi est-ce que Wayland existe et qu'on n'est pas sur l'ancien X11? Eh ben, en fait, il faut savoir que X11 est bloqué et gelé. Il n'y a plus de nouveaux développements qui sont faits depuis presque 10 ans. En fait, il est en mode maintenance et il n'a plus du tout de nouveaux développements qui sont gérés pour X11. Donc, en informatique, tout le monde sait qu'un projet qui n'évolue pas, c'est un projet qui meurt. Alors, pourquoi est-ce que X11, pourquoi est-ce que X11 va mourir? X11, il arrivait à un point d'instabilité qu'il fallait inventer quelque chose. X11, la philosophie, c'est un serveur graphique. Et le serveur graphique gère tout. Le client juste se connecte, un client super léger qui se connecte à un serveur super lourd et le serveur sait tout faire. Et puis, c'était fait dans un... Ça, je te parle, c'est des années 90. Hein, et c'est 80 même. C'est fait, tu as le serveur X parce que ça s'appelait X11. Pourquoi? Parce que X, ça pourrait être droppé par n'importe quel autre serveur. Il suffit une autre implémentation, et voilà. Sauf que, au fur et à mesure du temps, il savait faire tellement de choses, il est devenu tellement fort que, avoir un autre serveur que X, pas ça, c'est devenu genre impossible, ou tellement difficile à coder from scratch que ça n'allait pas pouvoir arriver. Et voilà, en fait, c'était que des forks et tout. Et en fait, ce qui s'est arrivé, c'est que maintenant, il est arrivé à un point où on n'arrivait plus à implémenter de nouvelles features sans faire de régression dans les autres. Il était devenu tellement immaintenable que on était obligé de rentrer en feature freeze, c'est-à-dire qu'on développe plus aucune feature et on se contente de faire du bug fix sur Alors, au fur et à mesure des années, il a acquéri beaucoup de features, hein, il savait tout faire. Mais voilà, du coup, les développeurs de X, bien exactement les mêmes qu'on fait X11, vont aller faire Wayland. Ils sont allés faire Wayland en voulant ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'ils ont fait dans X11. Mais sauf qu'en fait, ils sont. C'est-à-dire que au lieu de faire un serveur qui sait tout faire et le client qui est super stupide, ils ont voulu faire l'inverse. C'est un serveur qui est très stupide et le client qui sait faire plus de choses. Parce qu'ils sont passés à. Parce qu'ils ont choisi la philosophie inverse, le changement a été très 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 long parce que du coup, ton serveur était bête. Et tous les clients devaient savoir faire. Donc, tu sais, tu utilises du GNOME, du KDE ou du Mate ou je sais pas quoi. Chaque fois, pour chaque implémentation, il fallait tout refaire. Et les mecs, ils ont jamais voulu entendre raison. Ils ont dit non. Pendant les 20 ans qu'on a fait X11, là, où j'ai été mainteneur de X11, ça a été un cauchemar. Je veux plus revivre ça. Donc, mon serveur sera pour toujours stupide. Alors, il y a des solutions. Alors, attends, comment dire? Au fur et à mesure du temps, du coup, il y a KDE et tout ça qui sont. Je recommence un peu en arrière, excusez-moi. En gros, ce qui se passait, donc les features qu'a besoin un gestionnaire graphique, c'est par exemple partage d'écran, resizer une fenêtre, enfin redimensionner une fenêtre, agrandir, minimiser une fenêtre, partager le son, le son c'est pas de l'écran, mais voilà, tout ça pour dire que tout ce genre de features là, ça n'existait pas dans Wayland avant. Vu que le serveur était stupide, il savait pas faire tout ça. Et le plus avancé dans le support de Wayland, c'était quand même KDE. Et ce qui s'est passé, c'est que récemment, quand même, il y a eu Steam qui est arrivé, Valve qui est arrivé, KDE, tout ça. Et en fait, ils ont fait un logiciel qui s'appelle WLRoots, une librairie qui s'appelle WLRoots, qui est en fait une implémentation cliente, donc pas du serveur, mais cliente, qui implémente tout un lot de features, tout un lot de fonctionnalités que les compositeurs de fenêtres vont savoir faire. Et voilà. Et donc, en gros, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a encore à parler, 15 ans après, on a encore à parler de Wayland X11
11, bah, c'est justement parce que j'ai dit que les développeurs, leur idée de ne pas vouloir refaire les mêmes erreurs, ils sont tellement restés bornés à vouloir faire un serveur light. C'est devenu compliqué à chaque fois que tu voulais faire un nouveau gestionnaire, à chaque fois que tu faisais un gestionnaire de bureau, donc pour KDE, pour Maté, pour Genome, pour tout le monde, c'était extrêmement compliqué d'arriver à faire en sorte que toutes les applications fonctionnent sur les environnements de bureau. Parce que chacun des gestionnaires de bureau devait réimplémenter le client X11. Alors, du coup, ils ont fait une espèce de librairie qui permet de développer des features un peu plus exotiques, de redimensionner une fenêtre, partager une fenêtre sur Viewer, etc. etc. là. Voilà, donc maintenant on est arrivé à un stade de maturité où le KDE, eux, ont tout, donc il y a ce WL route qui arrive à un stade de maturité qui a quasiment toutes les features qui va bien, qui fonctionne avec tous les serveurs Wayland. Donc c'est cool. Alors, il manque encore des choses. La calibration des couleurs, le high DPI, là, la haute densité de pixels, tout ça. Il manque encore des choses qui sont pas encore tout à fait prêtes, qui marchent pas sur tous les trucs, mais la communauté Wayland travaille fort dessus. En tout cas, maintenant, on est arrivé à un niveau de maturité où KDE va d'ailleurs supporter uniquement Wayland bientôt, enfin, 15 ans après. Et surtout, alors KDE ont, parce qu'ils ont commencé le travail d'intégration de Wayland très longtemps, ils ont tout fait eux-mêmes, donc tout est codé niveau client, et ils n'ont pas encore WL route, la librairie dont j'ai parlé n'est pas encore utilisée, mais bientôt ils vont travailler à utiliser cette librairie plutôt que leur implémentation maison de WL route. Donc voilà, tout ça pour dire que bientôt Fedora va utiliser 100% de Wayland, beaucoup de travail a été fait, beaucoup de discussions dans les communautés, est-ce que ça doit être géré par le serveur, par le client, beaucoup d'eau a coulé sur les ponts et 10-15 ans après, on arrive enfin à la parité de features. Ce qu'on appelle la parité de features, c'est Wayland fonctionne aussi bien que X11 et on va pouvoir y aller. Et on va pouvoir faire le jump. Donc ça y est, enfin, depuis le temps qu'on en parle. Je vous conseille de lire l'article. C'est fait par il est écrit par un développeur de KDE. Enfin, mieux qu'il vous retrouve. En anglais, hein, mais il vous retransmettra mieux ce que j'ai. Vaut mieux le dire que m'écouter, j'imagine. Mais au moins, voilà, vous aurez une idée de ce qui se passe derrière ces univers de fenêtres compositeurs. Voilà. Alors, j'ai un geekage, mais c'est pas mon geekage. J'ai un deuxième geekage. Je voulais vous parler. Est-ce que, messieurs, vous avez déjà essayé de télécharger des vidéos sur...
Oui.
Sur Linux, sur YouTube.
Oui. Oui, je fais en ligne, moi, en général. Non, je télécharge les sons, pas forcément la vidéo. Et je le fais par un éditeur en ligne que je trouve. Je tape YouTube MP3 et en général, je prends le premier ou deuxième qui vient.
Ok. John ?
Pareil.
Après, en ligne ?
Bah, j'utilise la ligne de commande principalement.
YouTube DL ?
Ouais.
Ok.
Ou des fois, je passe par la version Docker avec le client web permet
aujourd'hui, réglages. Je vais vous parler d'un petit geekage. Comment on télécharge une vidéo YouTube ? En fait, très facile. Très très facile. Si vous êtes vous utilisez pas de logiciel, vous le faites à la mano, pas YouTube DL, pas un site tiers, rien. Vous voulez le faire vous-même. Très facile, il suffit dans un browser, c'est si vous appuyez sur F12 là, vous affichez le code source, puis vous voyez tout, vous voyez les URL, les URL de la vidéo, tout. Donc en soi, ça ne m'embête pas de récupérer l'URL faites F12, vous allez ouvrir la console réseau, puis vous de récupérer l'URL du player YouTube, c'est facile, c'est une URL, c'est youtube.v1/player, une vidéo ID, puis vous téléchargez. Et, mais ça, qu'est-ce qui se passe quand tu télécharges? En fait, tu te rends compte que tu es limité à genre 60 kilosecondes. Une vidéo WebM, par exemple.
Là, tu dis, mais c'est pas possible, ma vidéo elle fait 1 giga, tu télécharges en HD, machin et tout. Pour une vidéo de 10 minutes, il va te falloir 6h30 pour télécharger. Et là, entre qu'est-ce qui se passe derrière les sites que vous utilisez, derrière YouTube DL ou quoi, pour que ça télécharge 6? En fait, Google, c'est des malins. De toute façon, tu peux pas empêcher quelqu'un d'accéder à l'URL parce que, il faut qu'il puisse y accéder. Par contre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils vont limiter la vitesse de téléchargement aux URL si n'a pas réussi à faire certaines étapes, quoi, voire tout de suite. Donc, quand vous utilisez un logiciel, quand vous utilisez le logiciel YouTube DL, un site web, ils vont faire eux derrière pour pouvoir télécharger une vidéo YouTube correctement. Donc, à cette fameuse URL, en fait, il y a un paramètre qu'on donne, qui s'appelle N. Fait exactement la même chose que les crypto-monnaies, c'est-à-dire que YouTube, quand tu télécharges une vidéo, il te demande à ton navigateur, là, en JavaScript, de résoudre un challenge, de résoudre un challenge, un algorithme, comme ça. Il propose de résoudre un challenge et de le passer en paramètre à la vidéo que tu télécharges. Quand tu télécharges cette vidéo et en paramètre, tu me donnes la réponse à mon challenge. C'est aléatoire. Donc toi, le but, ça va être de venir parser récupérer la réponse YouTube, de récupérer ce challenge, de le résoudre et de donner la réponse à ce challenge, un peu comme une preuve de calcul dans les bitcoins, quoi, où chacun doit faire des calculs, résoudre le calcul et puis envoyer la réponse. Là, faut faire exactement la même chose pour prouver à YouTube que genre t'es vraiment le client, que t'as répondu au challenge et que tu veux vraiment regarder la vidéo. Donc même en ayant ça, tu télécharges, bon, ça va un peu plus vite, mais toujours pas ça la vitesse. Qu'est-ce qui se passe en arrière? C'est qu'en plus de te proposer un algorithme à résoudre, il te limite la vitesse en fonction de la taille du fichier. Je m'explique. Donc une fois que tu as trouvé la réponse au challenge, t'as déjà moins de limites, mais il reste quand même une limite. En fait, YouTube, si à chaque fois que quelqu'un voulait télécharger une vidéo, tu téléchargeais le maximum de la vidéo, au maximum de la vitesse, juste ça tuerait la bande passante de YouTube. Donc plus la vidéo est grande, plus tu vas la télécharger doucement. Et donc, pour faire ça, en fait, il faut télécharger des ranges de vidéos, des ranges de bytes, quoi. Où en gros, l'idée, c'est de télécharger séquentiellement plein de petites sections. Que si la taille, elle est petite, la limitation de bande passante va être plus grande. Donc, télécharger plein de petits fichiers, ça va coûter moins de temps que télécharger un grand fichier. C'est un peu l'histoire, le principe du buffering là, dans YouTube, là. Là, c'est la deuxième sécurité qu'ils mettent en place. Et la troisième chose, si tu veux absolument avoir ta vidéo YouTube, c'est que pour des raisons d'économie de. Pardon. Alors avant de passer à ça, je voulais juste dire que le fait de télécharger le fichier en séquence, on passe d'une bande passante de 4 mégas secondes, c'est déjà pas mal quand on ne limite pas, à 100 mégas secondes. 100, 500 mégas secondes quand tu télécharges en petits morceaux. Le fait de télécharger en petits morceaux, là, la vitesse, elle n'est plus du tout bridée. Voilà. Donc, troisième chose, pour gagner de la place, YouTube, en fait, il sépare la bande vidéo et la bande audio. Parce que, par exemple, une bande audio entre du 720p, 1080, 2000, 4000, bah, c'est la même. C'est la même, mais tu as plusieurs images. Donc, en gros, il faut que tu télécharges et une bande image et une bande audio. Et ensuite, grâce à FFmpeg, tu as juste à fusionner ton audio et ta piste audio et ta piste vidéo. Et puis une fois que c'est fusionné, hop, c'est bon, tu as ta vidéo qui. Voilà, ce sont les trois étapes passes derrière quand tu utilises NewPipe, quand tu utilises YouTube DL, quand tu utilises VLC pour lire du. Trois choses qui. Voilà, j'espère que vous en aurez appris plus sur YouTube. Je laisse la parole.
Ok, bah tiens, c'est marrant, tu parlais de YouTube DL, ça me fait, c'est ce que je crois que j'ai déjà utilisé comme site. Donc, bah en gros, ouais, tu reprends le, que tu contournes le code pour le faire directement, quoi. Si je me trompe pas de ce que tu viens de dire.
C'est ça, bah en fait ils ont mis des sécurités pour rendre la ville plus facile possible, mais bon, à la fin c'est jamais impossible.
Mmh. Ok, bah c'est un peu comme le scrapping. Hein. Voilà, hein, y a toujours.
Moi j'ai trouvé particulièrement intelligent. Alors autant le fait d'un challenge de, bah si j'ai trouvé quand même que mettre un challenge, bah comme le Bitcoin là, le même principe que le Bitcoin. Ouais, c'est un peu intelligent, mais ce que j'ai trouvé vraiment intelligent et sournois, c'est que plus tu télécharges de demander un gros fichier, plus ça va aller doucement. Et plus tu télécharges de demander un petit fichier, plus ça va aller vite. Ça, j'y aurais jamais pensé par moi-même, honnêtement.
Ouais. Ok. Bah écoute, on va enchaîner maintenant sur la dernière rubrique de cette émission, et ce sont les recommandations. Et je ne sais plus, alors qui est en vert finalement ? C'est John, c'est bien ça ? Hein ? Avec Hack-moi si tu peux.
Oui.
Eh ben, je te laisse parler de ce livre.
Ouais. Et en plus, j'en ai pas un, j'en ai deux. Bah, du coup, ouais, Hack-moi si tu peux. Ma lecture de cet été. L'été, bon, on arrive en. On est en octobre, donc ça date un petit peu, mais. C'était ma lecture de cet été, donc Hack-moi si tu peux. Mémoire d'un repenti, d'un cyberpirate repenti, pardon. Eh ben, ouais, c'est ma meilleure. C'est un des meilleurs livres que j'ai lus pour le moment. Hormis celui sur Snowden, Nulle part où se cacher. Ça raconte quoi? Bah ça raconte ça romance. Voilà, on va mettre quand même des nuances. Ça romance l'histoire du hacker pirate le plus du hacker français pirate le plus recherché
C'est quand même pas celui qu'on parlait tout à l'heure.
Non. C'est un autre niveau. Je me rappelle en plus de cette époque-là, on en avait beaucoup entendu parler aux infos lors de son arrestation. il avait mis pour je ne sais plus combien de millions de dollars de chers texans. C'est l'époque des fabuleuses yes cards, donc les cartes qui disaient oui. Et son livre est plutôt pas mal. Le plus marrant, c'est que pas longtemps, quand j'ai fini son livre, j'ai vu qu'il était passé chez Micode aussi, et il a confirmé en vidéo ce que je pensais aussi, c'est qu'il y a certains passages qui sont pas romancé, mais disons qu'il a évité certains détails. Il a évité certains détails. Pour le coup, il n'y a pas besoin d'être super technique. Je trouve que y a un super travail qui a été fait sur ce bouquin. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout technique va pas se sentir largué, et quelqu'un comme moi qui est pas 100% technique mais qui aime la technique quand même n'est pas non plus j'allais dire délaissé, n'importe quoi, comment dire, je suis pas resté sur ma faim non plus. J'ai trouvé que l'équilibre était plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte comment il a sombré déjà dans le hacking pirate de ses débuts en piratant des lignes téléphoniques jusqu'à recharger ses mobicards et pour ensuite être celui que la CIA a désigné responsable du groupe hacker en Europe, le chef du groupe en Europe. Donc voilà, ouais, c'est bien amené. Il y a plein de détails sympas. Moi, en tant que proche parisien, certains lieux qui donnent et certaines dates me mettent dans m'ont rappelé l'ambiance qu'il y avait, du moins. Ça soit
C'est-à-dire?
c'est plus ici notamment des boîtes de nuit où là bah les boîtes qui sont citées, les détails qu'ils donnent, c'est le bruit qui courait à l'époque, quoi. Ils jouent pas du pipeau. Ou alors bah c'est qu'il était dans le il y a été quand même. Si tu veux, c'est des détails voilà, qui couraient sur bah, les CB qui étaient utilisés, des CB blanches, donc voilà, où les serveurs ne regardaient pas forcément si c'était une vraie carte ou pas, tant que ça passait et tant que ça payait des Mathusalem. Enfin, il y a plein de petits détails comme ça. Des dieux, enfin voilà, et tu sens le comment dire, tu sens le vécu, enfin disons plutôt que tu vois que c'est pas un journaliste random qui a écrit sa biographie, par exemple. Tu sens les mots, tous les mots qui sont utilisés, etc. La manière qu'il laisse comprendre les choses sans les dire tacitement. Tu sens que c'est lui qui a écrit son livre. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais enfin voilà, c'est plutôt pas mal. Donc il explique sa chute, comment il s'est fait serrer. Spoiler alerte, il a suffi d'une fois sans VPN et pour une femme, surprise, bah pour que à 18 ans, au lieu de passer le bac, il était à Nanterre. Donc il explique cette partie-là. Il raconte toute sa partie bah, quand il va à Nanterre dans la brigade spécialisée pour les crimes informatiques. Et son passage du bon côté de la force, si je puis dire. Par la suite, qui en vient.
C'est quoi son
Mais
pseudo? Le hacker?
Il en avait plusieurs. Les
Mais
deux.
spoil pas tout, faut lire le livre!
Ouais, mais même sans ça, c'est. Ose. Et. Je regarde parce que c'est dans les premiers. C'est dans les premiers trucs. Bonne question.
Eh ben, tu laisseras en suspens pour ceux qui voudront lire le
Mais.
livre.
Ouais, mais pour le coup, ouais, c'est assez pas mal parce que, ce qui est, en plus, ce qui est vraiment, comment dire, à l'opposé, c'est que quand son interview chez Micode, elle est, enfin, ouais, je crois que c'est chez Micode, non, pas chez Micode, comment il s'appelle, celui qui a été, dans la série, dans la chaîne Légende, il faisait de la radio avant. Enfin bref, la chaîne YouTube, c'est Légende. Et bah, son extrait où il passe, sur les réseaux, ça a pas mal de personnes qui ont chié dessus en disant que ils faisaient de la banalisation de la cybercriminalité, etc. Alors que pas du tout en fait. Son bouquin, c'est plus voilà. Il explique oui, il a fait, oui, il a été il claquait des sommes pas possibles dans tout et n'importe quoi, mais bah, il a douillé quoi. Et ce que j'ai bien aimé, c'est sa partie qui raconte justement sur bah, quand il arrive en mandat de dépôt à la prison de Nanterre, il te donne bien les détails, voilà. Il explique que oui, il se retrouve le petit mouton entouré de loups. Tout le monde savait pourquoi il était arrêté. Donc tout le monde essayait de l'avoir de ses bons côtés pour des bons plans, n'est-ce pas? Mais voilà, il explique vraiment comment il a douillé et après bah, comment il aide maintenant aujourd'hui. À se prémunir des différentes attaques. Et voilà, c'est assez touchant par moment, parce que voilà, tu sais que ça aussi, dans les premières minutes, où ce qui tourne le plus souvent et on parle, c'est que bah voilà quoi, il était victime de harcèlement. Et en gros, il le dit lui-même, hein, ce qui l'a sauvé après, c'est quand il s'est rendu compte avec les mobicards que pour avoir la paix, il avait trouvé le moyen de bypasser le système pour le rechargement des crédits. Car oui, pour les plus jeunes qui nous écoutent, avant, le téléphone fallait le recharger. Et bah, qu'il avait eu la paix comme ça. Et voilà. Mais ouais, c'est un bon livre. Comme je disais, il y a quelques petites parts de pas de romance, mais enfin il s'est arrangé sur, il arrange sur certains détails ou voilà, il omet certains détails. Mais à côté, il nous donne le nom de la machine qu'il utilisait pour embrosser les cartes, plein de trucs comme ça. Et ouais, franchement, c'est un bon livre. Il se lit très bien. Et bah voilà quoi. La morale, tu l'as vite, tu la sens vite, même dans la façon qu'il amène ses délits. Il en joue pas en fait. Je sais pas comment dire, mais voilà. Le côté, disons que toute la partie où il raconte son côté de cybercriminel, c'est comme si entre deux phrases, il te disait non mais attends, c'est bientôt que je vais douiller. Je ne sais pas comment expliquer, mais on le sent bien quand on lit le.
En plus, côté, comme tu dis, il était adolescent au moment où c'est arrivé.
Ah oui, donc, c'était le plus
mineur,
jeune.
Majeur.
Ouais. Oui. Bah,
il venait d'avoir 18 ou je sais pas si.
Ouais.
Mais je veux dire,
à 18 ans, c'est quand
c'est pire le moment. C'est pile le moment où tu te crois fort. T'es pas les pieds sur terre, quoi, on va dire.
Ben, le. Enfin.
Bah, il l'écrit avec le recul maintenant, il l'écrit, mais je veux dire, j'ai chopé pour une histoire. Alors, je connais pas, il faudra vraiment que je le lise, tu m'as donné envie de le lire en plus.
Non, franchement, tu vas pas être déçu. C'est une tuerie. Et puis, le fait justement, bah là, ça revient un peu à. Il est pas dans le. À l'inverse d'un. Comment il s'appelle déjà, ce trou du cul Rabin des Bois. Qui se fait passer, qui prend des attitudes de super-héros parce qu'il a utilisé une faille SQL et qui te raconte des conneries pas possibles. Là, on n'est pas du tout dans le même registre, quoi. Il t'explique ce qu'il fait. Déjà petit, il faisait sauter les mots de passe BIOS. Il se connectait chez les voisins sur la ligne téléphonique. Il t'explique. C'est ça qui est très fort en fait, c'est qu'il amène les choses. Quelqu'un qui a suivi de loin, ouais, ce qui est mon cas, je connais les deux trois magouilles qui ont existé, de fait des trucs, mais j'ai pas le niveau technique, ne serait-ce que pour essayer de reproduire ces trucs-là. Mais je vois ce qu'il veut dire. Je vois à quoi il fait allusion, etc. Franchement, c'est super bien amené. Et ouais, bah c'était. Alors, comment il s'appelait le groupe? J'ai un trou de mémoire. Voilà. Mais son instruction, elle avait été faite entre ici, enfin, entre la région parisienne et Marseille, principalement.
Mais entre la
Voilà.
région parisienne et Marseille, c'est un peu toute la France, quoi.
Non, non. Paris. Enfin, lui, il était du côté
Ah, à
de
Paris et à
Pontault-Cogo.
Marseille.
Et voilà. Parce que l'autre tête d'enfant, c'était un adulte. Et l'adulte était du côté de Marseille. Mais, enfin, c'est. Franchement, c'est un super bon livre. Voilà. Et il laisse pas. Comment dire? En fait, il laisse pas le temps à par exemple, un ado qui livrait ce livre parce que, ouh, il y a hacker. Il laisse pas le temps de laisser entendre que ça serait c'est une issue sans danger, le côté sombre du hacking. Dès le début, il laisse entendre, voilà. Il y a quelques petits trucs glauques qui racontent quand certains de ces des gens avec qui ils bossaient se retrouvent à ligoter des gens de la CIA, les torturer, etc. Bon, voilà, quoi. Disons
Faut
qu'un ado.
définitivement que je le lise. À ligoter
Non,
des
non,
gens de la
franchement, c'est
CIA.
super. Ouais. Dès le début, enfin, ça vient. Là, ça fait un petit moment que je l'ai lu, donc je ne saurais pas te dire exactement, mais très vite, où il te laisse entendre que c'est pas parce que c'est sur le net que tout se passe bien, quoi. Donc, voilà. Et que clairement, vaut mieux. T'es des gentils, même si tu gagnes vite de l'argent, tu te fais remonter quand même, quoi. Donc, ouais, c'est un superbe livre, il n'est pas très long. Comme je disais, il y a la morale. Il parle de différents sujets. Et voilà. De base, c'est juste un gars curieux et qui, par les forces des choses, s'est retrouvé à être à la tête d'un grand réseau. Voilà. Il a commencé par acheter des cartes, puis à les copier elle-même. Donc,
Eh
ouais.
ben écoute, ça donne envie de lire tout ça, hein. Ça donne envie. Eh ben moi, je vais devoir faire très vite pour finir parce que j'ai encore pas mal de petites choses et que j'ai une vie de famille quand même à faire. Donc, est-ce que tu avais une recommandation, Morgane?
Non, absolument pas.
Eh ben
À
écoute,
part
moi
le
je
livre
suis
de John, j'ai pas de recommandation.
en Ben, c'est déjà bien.
Lequel?
Eh ben écoute.
Comment lequel? Hack-moi si tu peux, c'est pas ça que t'as parlé?
Oui, j'en ai deux, moi.
Ah, mais j'avais pas vu.
Non,
J'avais pas
on a
vu.
switché un peu vite alors.
Alors, bah écoute, je te laisse faire ta deuxième alors.
Bah, le deuxième, ça va beaucoup plus vite.
Eh ben, vas-y.
Bah, toujours est-il. En fait, c'est simple. Le premier, vous avez dit, bon, si le gars, très jeune, il a pu réussir à pirater des trucs parce qu'il s'est mis le nez dans un livre, eh ben, pourquoi pas moi? Mais j'ai du mal à comprendre les algorithmes. Eh ben, il y a un super bouquin. Les algorithmes, c'est plus simple avec un dessin. C'est sur du code Python. Eh, comme quoi, hein, la boucle du début à la fin. Bah, c'est un petit livre, pareil, il fait pas beaucoup de pages, avec des corrections qui sont disponibles. Ouais, 220 pages. C'est assez gros parce qu'il y a du code. Et ça explique les algorithmes de base, le triabule, tout ça. Mais expliqué avec des dessins. Enfin, des dessins, oui, des schémas, etc. C'est super pédagogique, je trouve. Voilà, c'est un super petit livre. Bien sûr, c'est du Python, mais après, bah en soi, l'explication qui sont données peut servir à pas mal de programmation orientée ou non. Mais il y a vraiment de tout. Il y a du Quicksort, diviser pour mieux régner. Tiens, je vais ouvrir une page au hasard. C'est quoi? Là, c'est ah bah le hachage. Voilà. Il y a un petit peu de tout. J'ai lu les deux premières pages. Après, j'ai fait plus des. Je l'ai plus feuilleté comme ça, mais j'ai pas lu plus que ça. J'ai fait les deux premiers chapitres et c'est super cool. Bah, ça permet de mieux visualiser comment fonctionnent les algorithmes. Voilà. Il y a de. Par exemple, pour ceux qui font de la data, il y en a une partie sur les introductions au graphe. Voilà. Il y a les bases.
Import seaborn as SBN.
Ouais, ça c'est la maison d'édition.
Mais non, ça c'est une librairie pour faire du database.
Non, non, c'est le deckboardsupérieur.com. C'est la maison d'édition
Ah ouais?
crée le truc, ouais.
D'accord.
Il y a du parallélisme, tout ça.
Non, mais
Là,
là,
c'est les premiers
je parlais
niveaux.
d'une librairie Python.
Ah oui. Mais voilà, là, c'est les premiers niveaux. Bah, quand j'ai partagé ça à mes collègues, il y en a un qui m'a montré qu'il y en avait un autre qui était sur des algorithmes un peu plus évolués, dans la même idée. Je ne l'ai pas vu traduit en français pour le moment. En même temps, je n'ai pas cherché, parce que je vais déjà finir celui-là avant de me lancer dans d'autres. Mais bah, pour le coup, si vous cherchez un petit livre pour mieux comprendre les algorithmes, et ben, c'est un très bon bouquin. Voilà.
Eh ben écoute, je vais enchaîner sur les trois dernières recommandations, ça va aller très vite. Je vais essayer de boucler ça en moins de 2 minutes parce que, comme je le dis, j'ai encore pas mal de petites choses à faire et il se commence à se faire tard. Alors, pour moi, j'ai une série que j'ai vue qui est vraiment intéressante, même si je pense qu'elle est très elle est très romancée. C'est la série sur Bernard Tapie qui est disponible actuellement sur Netflix.
Un rapport avec l'homme politique.
Ouais, par rapport au personnage, par rapport à pas mal de choses. Par contre, le dernier épisode est vraiment très bien avec deux acteurs qui s'affrontent et on voit vraiment que ils ont dû prendre beaucoup de plaisir à tourner cette scène et c'est vraiment c'est intéressant. Après, voilà, j'ai pas, je dis pas que c'est, ça doit être assez quand même assez romancé. Bon, après, ça se regarde, faut pas non plus. Il y a des faits qui sont là, mais tout ce qui est en dehors de ces faits, je pense que c'est très romancé. Je vais enchaîner très rapidement sur un petit jeu qui est sorti sur Switch récemment et qui me rappelle l'époque de la Super Nintendo. C'est F-Zero 99 en passe actuellement. Pac-Man 99, qui est un battle royale sur F-Zero, qui est sympa, même si je trouve que le matchmaking des fois est un peu étonnant, mais voilà, on arrive à prendre du plaisir, à faire des courses d'aéroglisseurs, et ça reprend pas mal de choses. Ce qui me surprend toujours un peu, c'est que ça fait 1,1 giga. C'est un jeu de Super Nintendo à la base, il y a juste des pistes sonores et un matchmaking. Je sais pas ce qui fait que ça rajoute 1 giga. Alors que je crois que de base, l'ISO, la ROM, elle faisait 345 kilos sur Super NES. Et enfin, une toute dernière chose, si vous
Ça s'appelle
aimez
un
les mangas.
cryptolocker.
Ben, faut bien financer, hein. Faut bien financer le développement du jeu, hein, Morgane, pendant ce temps-là. C'est gratuit à la base, hein. Et une dernière petite chose, bon, très rapidement, si vous allez dans cette grande enseigne néerlandaise qui est très connue, qui n'est pas disponible de ce côté de l'Atlantique, de ton côté de l'Atlantique, Poto Morgane, eh bien, vous avez des tapis de souris à effigie de différentes licences Nintendo à 1,99€ et qui sont très grands et très pratiques. Voilà, pour moi c'est terminé. J'ai promis 2 minutes et ça fait 2 minutes. Est-ce que vous avez un dernier mot, messieurs, avant qu'on conclue cette émission?
Un mot de conclusion. J'ai un mot de conclusion. Je voulais dire, ben, c'était cool de se revoir là après
Ouais,
plusieurs mois quand même. On espère
ça
qu'on va
devient
se
toujours très
remettre.
difficile de se caler les dates. Bon, après. Il y a eu des petits
Parce que
événements qui ont fait que ça
il y
n'a
a un
pas pu
océan qui nous
s'organiser avant.
sépare aussi, mais.
Ouais, mais bon,
Non, ouais,
voilà.
ce que je voulais dire, c'est donc nous, à nous, en tout cas à nous, je nous souhaite qu'on va vivre cette année, à continuer à essayer d'être là tous les mois,
On va l'espérer, on
d'être
fera
un
le
peu,
maximum.
d'être rigoureux, voilà. Et puis ben voilà, comme dit la dernière fois là, il y a eu des gens qui. J'ai parlé un peu du podcast en mode libre là, qui avait arrêté. Je disais que c'était dommage parce que bah, nous, ça fait
Ouais.
longtemps qu'on est là, il n'y a pas d'autres podcasts, tout ça, tout ça. Donc ces propos ont été apparemment mal interprétés et des gens nous ont un peu craché dessus.
Oui.
Bon, on va pas parler de ça, mais voilà. Et bah, nous, voilà, comme ça se voit, on commence à avoir plus en plus de mal à se rencontrer, à trouver des horaires qui nous conviennent à tous, à être tous disponibles. Donc on est plus sur la fin que sur le début, donc on est très content s'il y a d'autres podcasts Linux qui se mettent en place, d'autres
Ah
podcasts
oui.
Linux qui se mettent en
Ah
place,
oui.
ou
Ah
d'autres personnes qui nous rejoignent, on serait très content. Mais
voilà. Et si
voilà, en
même
tout
ils
cas
veulent
cette
un
année on va
jour
essayer de
parler de leur
survivre.
podcast dans notre émission,
Ah nous, on a toujours été
évidemment.
ouvert à la publicité. En tout cas, on a
Ou
toujours été ouvert,
parlons
mais voilà.
Linux, mais je crois qu'on connaît des gens un co-animateur de Parlons Linux.
Ouais.
Mais
Un ou
je
deux.
pense qu'il est pas très très loin. Mais
En
ouais,
tout
c'est
cas,
vrai
tout
que
ça
tout
pour
à fait.
dire que j'espère que nous, on arrivera à continuer cette année. J'espère que je nous souhaite une année de plus,
Bah, c'est
mais
surtout
ça
que le
sent
prochain
plus la
numéro,
fin
c'est
quand même.
le numéro des 7 ans.
Ah ouais?
Ça serait bien. Ouais, ça serait
Ah
bien.
ouais.
Ouais, le
Bah, il y aura un
numéro des
prochain
7.
numéro, c'est sûr, mais est-ce qu'on tiendra une année de plus? Est-ce qu'on tiendra 2 ans de plus?
6 mois de plus, 2 mois de plus,
On
deux
sait
ans de
pas.
plus,
Non,
on
mais
ne
c'est
sait
vrai,
pas.
là, ça tient plus qu'à notre motivation, en vrai.
Ouais. Puis c'est vrai que moi, personnellement, la motivation devient de plus en plus difficile de par l'usure, voilà. Mais bon, voilà, s'il faut qu'on voilà, un peu de sang frais. Moi, si un jour je dois arrêter, je laisse pas le pote, je ferme pas le site, hein. Vous faites ce que vous voulez, hein. Voilà, ça, si vous voulez continuer, moi, ça me coûtait 1,50€ par mois, ça me tuera pas ma vie que vous voulez héberger, hein. Voilà, hein. Y a pas de souci, hein, le nom de domaine restaurant, hein, ça, y a pas de souci. Bon, ça, c'est un autre domaine, un autre débat. Moi, j'ai plus rien à rajouter. John, est-ce que tu as un mot de la fin?
Non. Si, 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 si.
Ah, vas-y.
Il y a l'Open Source Experience bientôt.
Ah, c'est quand?
Le 6 et 7 décembre.
Oh, bon, et on en aura peut-être enregistré un d'ici là.
Ouais, mais quand même, pensez,
À
voilà.
réserver?
Ben oui, à
Mais c'est en
demander vos
semaine,
badges.
ça. Attends, je regarde.
À la fin du mois, je vais normalement à la, bah, à la fin du mois, le mi-octobre, je vais à Lacfest à Québec, la ville de Québec. Peut-être que je reviendrai avec des petits sujets.
Bah oui, oui. Ah, bah, tu me diras comment ils ont fait pour la machine à le distributeur tranquille.
Voilà. Donc, lequel puis, t'intéresse je me j'irai.
Les distributeurs sans fil.
Distributeurs sans fil.
Ouais, ils ont retrouvé une autre méthode pour faire sauter le système de cryptographie des badges NFC qui permettent de payer.
Ah, toi, tu m'enverras le lien du talk là dans le Discord. J'essaierai de m'assurer d'être là.
Ok. Eh bien, sur ces bonnes paroles et sur ces petits futurs sujets, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne continuation. Encore une fois, merci messieurs d'avoir participé à cet enregistrement. C'est toujours un plaisir et on se dit à un an plus tard. Parce que est-ce que ça sera même rapidement ou pas, ça. L'avenir nous le dira. En tout cas, gardez la pêche et on se dit ciao, ciao.
Ciao, ciao.